Jusqu'au bout. Je crois qu'on peut y aller. On cale la prochaine, on sait jamais. Ok, ça va pas mal du tout. Comment allez-vous? Quelle est cette heure étrange pour un stream du matin qui n'est pas du tout un stream du matin, mais plutôt un stream du soir. 20h pile, waouh! Je crois que ça ne m'est jamais arrivé d'être à l'heure sur cette plateforme. Comment allez-vous? Ça va? Bien? Bien. Double stream aujourd'hui. La matinée Étienne, ce matin, la route presse comme d'habitude. Et puis, soudain, l'idée peut-être d'aller un peu plus loin que l'évocation de cette intervention du président Emmanuel Macron dans la nouvelle émission politique de France 2. Et on s'est dit avec France Télévisions que ce serait une bonne idée, en fait, de vous proposer également cette émission, cette nouvelle émission politique de France 2, présentée par Caroline Roux, qui s'appelle L'Événement, avec donc comme premier invité le président de la République, Emmanuel Macron, qui devrait démarrer vers 20h30, peut-être 20h20, on va surveiller quand même. L'idée est de vous proposer de regarder ensemble, le mot ensemble est important sur Twitch, cette émission, cette interview en direct sur Twitch, de pouvoir la commenter du coup ensemble dans le chat. Moi je me tairai la plupart du temps, c'est un peu frustrant d'ailleurs, je me tairai la plupart du temps parce que je ne veux pas couvrir ni les questions de Caroline Roux, ni les réponses du chef de l'État. Voilà, peut-être que sur des petit moment de blanc, il ne devrait pas y avoir beaucoup, je glisserai peut-être un mot, je ne sais pas. J'interviendrai dans le chat, peut-être qu'à certains moments je vous dirai, je soulignerai une déclaration, une annonce, on attend peut-être, qui sait, des annonces sur la guerre en Ukraine ce soir, puisqu'on va l'évoquer, l'émission est essentiellement consacrée aux questions internationales, avant une nouvelle émission, le président Macron qui revient dans 15 jours sur cette même antenne, sur France 2, dans la même émission. L'Événement, toujours avec Caroline Roux, cette fois pour répondre à des questions plutôt de politique intérieure. Voilà, donc je prendrai des notes, bien sûr, pendant cette heure, à peu près 90 minutes que devrait, 60 minutes que devrait durer l'émission. Et puis après, on la débriefera un petit peu ensemble. Pas trop tard, parce que demain, il y aura la matinale de France Info, bien sûr, sur le canal 27. Et puis, je vous inciterai à aller voir, pour ceux que ça intéresse, la suite de la soirée du débrief chez mes amis de France Info, justement, qui font une édition spéciale toute la soirée. Débrief avec des journalistes politiques, avec des spécialistes de la politique, avec notamment l'ami Jean Massier, ouais, Jean Massier de Twitch, qui sera ce soir sur France Info la télé sur le canal 27, yes, à partir de 21h30. Et puis, à partir de 22h30, une autre soirée de débrief, de débat avec des invités politiques, cette fois sur France 2. Oui, il y a l'OM qui joue aussi ce soir. Ichich qui dit, et surtout, il y a l'OM qui joue à 21h. On souhaite le meilleur aux Marseillais, qui sont relancés dans la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions après leur victoire 4-1. Et ça joue au Portugal ce soir. On leur souhaite le meilleur. Ça va à vous? Bien. Je lis quelques messages et puis on y va. Dans quelques secondes, je vous montrerai la bande-annonce de l'émission, qui est donc la toute nouvelle émission politique de France 2. Est-ce que c'est ce soir que Macron annonce la dissolution d'ICOPA 2? Écoute, Copa, ça m'étonnerait. Je ne crois pas qu'on soit arrivé à ce point compliqué du débat à l'Assemblée et du non-vote des textes, parce que majorité relative et pas absolue, pour justifier une dissolution. Mais après tout, c'est un pouvoir discrétionnaire du président, donc c'est quand il veut. Mais je ne mettrai pas une pièce là-dessus pour ce soir. Allez, je vous lis un petit peu, et puis je vous mets la bande-annonce. Bonsoir à tous, je vous plein de bonsoir, très gentil. Salut Sam, quel est ton secret pour être aussi beau? Beaucoup de crème. Oui. Kletos Bright, il y a Kletos Bright qui est un habitué ou une habituée, qui vient de trouver un job et qui ne peut plus être là le matin. Eh bien, c'est pas grave, c'est très très bien, bravo. Beaucoup de questions hors politique, on parlera du catch une autre fois. Aucune raison de dissoudre ce soir, Scaboro est d'accord avec la petite analyse que je viens de vous proposer à l'instant. Je viens de finir le travail il y a 4 minutes, donc cela il arrive à point nommé. Père Castor, sache Père Castor que bien sûr, France 2, le président Emmanuel Macron et moi-même avons calé en fait ce live en fonction de ton emploi du temps, donc ne sois pas surpris. C'est fait exprès pour toi, bien sûr. Le petit café est là, hein, c'est pas parce que c'est... Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû aller en chercher un deuxième. C'est pas parce qu'on est le soir que j'oublie le café. Bonsoir Étienne, tu peux m'appeler Sam, le stream ne va pas être ban à diffuser l'émission. Alors, précision importante et merci du coup Léolu de poser la question. Ce stream qu'on vous propose ce soir, il est en partenariat, il est en coproduction avec France Télévisions. Voilà. C'est ensemble qu'on a pensé ce petit rendez-vous de ce soir. On s'est dit que ce serait intéressant aussi que soit diffusé sur ce canal, sur Twitch, sur cet outil qui permet d'autres choses, notamment l'interaction, cette première émission de l'événement ce soir avec le président Macron. C'est diffusé sur France 2, c'est diffusé sur France Info Canal 27, c'est diffusé sur France Info La Radio, et donc c'est diffusé sur Twitch aussi. Donc j'ai j'ai les droits que m'a donné France 2, que m'a donné France Télévisions pour diffuser ce stream. Je ne me serais pas permis, bien sûr, sinon. Il y a des amateurs et éclairés qui suivent l'actualité politique. Copa estime que le président Macron, qui voulait peut-être garder le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, va être obligé de l'utiliser pour faire valider le budget, contrairement à ses espérances. Pas tout à fait d'accord avec ton analyse, Copa. Je vais remercier Annie dans un instant qui régale ce soir. Copa, en fait, depuis plusieurs semaines déjà, l'ensemble des analystes de la vie politique française estime que le gouvernement sera obligé d'utiliser le 49.3, donc cet article de la Constitution de la 5e République qui permet de faire voter un texte, de faire passer un texte à l'Assemblée sans avoir à le faire voter. Donc c'est un pouvoir fort de l'exécutif. Plusieurs semaines que les observateurs de la vie politique disent qu'en fait l'exécutif va être obligé d'utiliser ce 49.3 pour faire passer le budget, parce que le budget, c'est un moment essentiel de la vie politique et démocratique dans un pays. Il s'agit de voter les recettes et les dépenses de l'État, donc c'est vraiment au cœur de tout le débat politique, et l'opposition est, un, remontée sur pas mal de sujets, deux, très présente à l'Assemblée, uniquement une majorité relative, vous le savez, à l'issue des législatives pour le camp Macron. Donc on pense depuis quelques semaines déjà que le 49.3 sera utilisé pour le budget. Après, il pourra être aussi utilisé pour la réforme des retraites. La réforme des retraites, on ne sait pas quand elle se fera. Le président Macron a voulu une réforme rapidement, avant l'été. On a dit peut-être présenter à l'automne, peut-être au printemps. Sous quelle forme? À quel moment? Que contiendra cette réforme? Pour l'instant, ça fait beaucoup d'interrogations, et on verra donc s'il a besoin du 49.3, ou s'il arrive à trouver des voix, notamment du côté des députés LR, puisque depuis le début de cette mandature, eh bien, L'exécutif a réussi à faire passer plusieurs textes, notamment avec les voix des députés LR. Je vais remercier, je sais que ça la gêne parce qu'elle est très discrète, Annie, qui depuis le début de ce stream soutient et régale et vous offre à vous, communauté, beaucoup d'abonnements. Quel est le but de cette émission, Gloria XKO? Tu sais quoi, on va regarder la bande-annonce que je vous ai calée. Hop, on regarde la bande-annonce qui est très très courte, préparée par France 2, France Télévisions. Sur cette émission de ce soir, et puis après on reparle de ce début de cette émission. Je reçois l'heure 20h08. Je pense que l'émission devrait débuter vers 20h30, peut-être à 20h20. On verra. Je vous cale la bande-annonce qui est ici. Regardons.
C'est l'événement. Emmanuel Macron est l'invité exceptionnel de la nouvelle émission de la rédaction de France 2. Guerre en Ukraine, crise énergétique, retour de la menace nucléaire. Le chef de l'État répondra à nos questions. Une heure d'entretien sur ces nouveaux périls et les conséquences déjà visibles dans la vie des Français.
L'entretien exclusif du président de la République, c'est dans l'événement, votre nouveau rendez-vous politique présenté par Caroline Roux, ce soir après le 20h en direct sur France 2.
Court, simple, efficace, vous le voyez. Hop, elle est repartie. Donc il s'agit... d'une, je la recalme si jamais on veut la regarder à nouveau tout à l'heure. Il s'agit donc d'une grande première, puisque c'est la nouvelle émission politique de France 2. Le premier invité de cette émission en direct, donc avec des questions posées par Caroline Roux, journaliste spécialiste des questions politiques, c'est donc le président Macron. Et vous l'avez entendu, cette première, puisqu'il y aura une deuxième émission, toujours avec le chef de l'État, dans 15 jours, eh bien, elle sera consacrée essentiellement aux questions internationales. Voilà. Est-ce qu'il vous attend des grandes annonces, des grosses annonces? Alors c'est la question, Caradoc. Question internationale, ça veut dire que ce soir on va parler de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Sûr. Je serais surpris qu'on commence par autre chose. On verra. On va parler sans doute de l'Iran aussi. On va parler de la crise de l'énergie, parce que cette crise de l'énergie, évidemment, elle n'est pas que franco-française. Hein. Si on en est là aujourd'hui, bon, outre la question de la grève dans les raffineries, qui pour le coup est un problème franco-français, le prix de l'énergie, les risques de pénurie, les inquiétudes quant au manque de gaz, d'électricité pour l'hiver à venir, ça, c'est des conséquences d'une crise internationale et notamment de la guerre en Ukraine. Donc le président Macron devrait aborder cette question. Je remercie le raid de David Dufresne à l'instant et de ses centaines de viewers qui nous rejoignent. David, merci beaucoup. David qui propose un très beau contenu autour de l'actualité chaque jour sur sa chaîne. Vous tapez Dav Duf, D-A-V-D-U-F, journaliste David Dufresne avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à iTélé, dans une autre vie quand on était jeunes, tous les deux, et frais. Merci David pour ton raid. Voilà. On est en train de préparer ce react en fait, puisqu'on va regarder ensemble cette émission politique sur France 2, l'événement avec le président Macron. Quelqu'un me disait un instant dans le chat, est-ce qu'on s'attend à de grosses annonces? Bah, ça, c'est seul le président le sait. Je disais dans la presse de ce matin, on a lu ce matin ensemble dans la matinée Étienne, que par exemple sur la guerre en Ukraine, il pourrait faire des annonces par exemple sur le matériel militaire livré à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que il est reproché par certains depuis le début de ce conflit à la France de ne pas être parmi les plus gros fournisseurs de matériel militaire, disons-le d'armes, à l'Ukraine. Pour les gros fournisseurs, il faut plutôt aller chercher du côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Alors la France, à un moment, a essayé de faire entendre une autre musique en mode « oui, mais alors nous, on est discret, on ne dit pas tout, on ne dit pas quel matériel on donne d'après les études, les enquêtes des uns et des autres, il apparaît qu'on n'est pas quand même parmi les plus gros fournisseurs. Est-ce que le président Macron va faire des annonces ce soir? Par exemple, ce matin, on lisait que la France pourrait décider, ce pourrait être une annonce ce soir du chef de l'État, de livrer des chars Leclerc à l'Ukraine. Et on a constaté ensemble ce matin, en faisant quelques recherches à ce propos, que ce serait la première fois qu'un pays occidental livre des chars de conception occidentale à l'Ukraine dans le cadre de cette guerre. Ce serait vraiment une nouveauté dans ce conflit, alors que l'Ukraine a déjà reçu des chars, notamment de pays comme la Pologne, mais qui sont des chars de conception plus ancienne, de conception soviétique. Et les Ukrainiens, l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky, demande depuis un moment déjà des chars plus modernes, des chars de conciliation, de conception occidentale. Est-ce que le président Macron pourrait faire une annonce en ce sens ce soir, en direct sur France 2? Bah ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, Bien sûr, évidemment, ce matin on a bien rigolé puisque j'ai dit il est Charles Leclerc, beaucoup entendu Charles Leclerc, le pilote de Formule 1. Et on est parti sur un joli malentendu, c'était assez intéressant. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu, je lis vos questions surtout, si j'ai des réponses, je vous les donne. Si je ne les ai pas, parce que je ne sais pas tout, je vous le dis aussi, mais dans ce cas-là, on peut faire des recherches. À quoi pas de défend le... défend la position de la France quant aux livraisons d'armes à l'Ukraine. La France a filé les armes les plus efficaces qualitativement. Je pense que tu penses notamment au canon César, quand d'autres pays se sont débarrassés de vieilles rognes. Bon, pas tous les pays comme États-Unis et Grande-Bretagne, il s'agit quand même d'armement moderne. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis à propos des armes plutôt qualitatives, c'est vrai, livrées par la France. On pense notamment... au canon César, le président Macron pourrait par exemple faire des annonces ce soir au niveau de ces canons César avec d'autres exemplaires qui seraient livrés à l'Ukraine. À quelle heure l'interview? 20h30, dit Dim du 79, c'est ce qui est annoncé. Après, peut-être que le journal de France 2 de 20h d'Anne-Sophie Lapix, qui est en train de se dérouler en ce moment, d'ailleurs je vais vous montrer, regardez. Hop. Donc ce qu'on regardera ensemble tout à l'heure, c'est ça. Voilà. Donc j'ai préparé France 2, là on est en direct sur France 2, chez nos amis du 20h, le journal d'Anne-Sophie et Lapix. Peut-être qu'il sera un petit peu plus court, je ne sais pas, que d'habitude. Je n'ai pas l'info, mais c'est quelque chose qui peut se faire, durer par exemple 20 minutes, et à 20h20, on pourrait voir le début de cette émission sur France 2, nouvelle émission politique, l'événement. Je vois un très gentil message de David Dufresne qui vient gentiment de nous raid. David, je suis content de te voir dans le flot des messages, j'ai eu de la chance. Merci à toi, le toujours frais Samuel Etienne. Bon, après, je bois du café à 20h, je ne suis pas sûr qu'en termes d'hygiène de vie, ce soit une très bonne idée. Donc, France 2, c'est prêt. Et je surveille du coin de l'œil, j'ai un autre écran ici sur France 2. Si à un moment, vous voyez que l'émission commence sans moi, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai tendance à être un petit peu distrait. Allez, je vous lis un petit peu, je lis vos questions. Ah! Mimich 49 nous indique un tweet de l'Elysée annonçant l'interview pour 20h20. Alors, j'appelle ça, j'ai inventé ce concept le matin, l'info augmentée, améliorée. Je vous donne des informations, mais parfois dans le chat, vous les précisez, vous les complétez. Il y a toujours des spécialistes de telle ou telle question. Et forcément, moi après, je les vérifie, puisque c'est pas parce qu'une info est mise qu'on peut la donner comme ça et la partager, on la vérifie. Allons voir le compte Twitter de l'Elysée. 2 800 000 abonnés, je pense qu'on est sur le bon. Et vous avez raison, il y a 15 minutes, et je remercie qui m'a donné l'info. Je te cherche. Je t'ai perdu. Le viewer qui nous a donné l'info, Emmanuel Macron, a tweeté. Et ça a été retweeté par le compte de l'Elysée. Donc c'est Emmanuel Macron qui l'annonce, je vous donne rendez-vous à 20h20 sur France 2. On se posait la question, ça veut dire que dans 5 minutes va commencer l'émission en fait. Donc c'est intéressant puisqu'on était parti sur un 20h30 et vous voyez, le président Macron annonce lui-même que ça démarrera à 20h20. Donc manifestement, il a une info que nous n'avons pas. Hop, voilà. Allez, vos questions. Pardon, dans ces émissions un peu... exceptionnelle, particulière, en dehors de la matinée Étienne et de la revue de presse du matin, je lis un peu moins le chat, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages, et puis très peu vos subs. Donc merci à tous ceux qui soutiennent, qui s'abonnent, qui envoient des subs et des bits. Je vais en lire quelques-uns quand même, puisque tout à l'heure je ne pourrai plus le faire quand on écoutera le président Macron et l'interview et les questions posées par Caroline Roux. Donc Dave Mars, merci pour le sixième mois. Annie, un grand merci pour ton œuvre de ce soir encore. Emlikou, merci pour ton prime. Anne de Dub, les habitués sont là, merci pour le huitième mois. Adouki, merci pour le prime et le huitième mois. Oli Yu, merci pour le cinquième mois. Nilo Stock pour les beats. D'Artagnan, pour ton deuxième mois d'abonnement, RF Jules, peut-être Jules, je ne sais pas, pour ton Prime, Mimich 49, ah, je t'ai lu, je crois, tout à l'heure dans le chat, Almartage, Citadis 402, Bene 85, et Annie, depuis le début, qui soutient. Allez, est-ce que j'ai le temps? Ouais, dans 3 minutes, ça devrait démarrer, d'après l'info qu'on vient de voir, sur le compte Twitter de l'Elysée, peut-être le temps d'une question ou deux. Et je vais saluer les modérateurs, quand même, qui sont avec nous, et qui sont mobilisés, qui sont venus nombreux. N'hésitez pas, si vous tapez point d'exclamation modération dans le chat, vous avez un peu la philosophie de la modération ici. Je peux le faire, peut-être que quelqu'un sera plus rapide que moi. c'est une course de vitesse, qui va la gagner? Je crois que c'est moi. C'est moi. Et donc ça s'affiche. Ah, peut-être qu'avec un petit accent aigu du coup, parce que c'est moi qui l'ai configuré, le bot, et j'ai pas mis d'accent, je l'ai fait à l'anglo-saxonne, modération. Voilà, Nightbot vient vous donner les règles, pour ceux notamment qui sont là pour la première fois, et merci de votre curiosité. Pour résumer vraiment et simplifier, toutes les opinions sont acceptées ici, voilà. C'est ce qu'on appelle être en démocratie, les opinions légales, hein, bien sûr, et exprimées avec respect, par rapport aux personnes dont on parle et par rapport aux autres viewers. Ça, c'est quelque chose, je dis, tiens, c'est important. Tout propos raciste, homophobe, sexiste, discriminant d'une façon générale sera supprimé et son auteur susceptible d'être banni. Ici, on n'est pas pour le ban. On évite le ban provisoire, on évite encore plus le ban définitif. On est plutôt artisan du dialogue. Je dis « on » parce que c'est les modérateurs et moi. Mais évidemment, il y a des limites à ne pas dépasser pour que le dialogue puisse se faire de façon un petit peu sereine. Je surveille un petit peu nos amis de France 2. Les modos, je les salue, je le disais. Bobo 06, Francis, avec plein de 7, Gandalf Listari, Gugo 72 est là, Julo 18, Soleil Alan, merci à tous, vous êtes super. Et notre ami Nightbot est là, bien sûr, aussi. Va-t-il parler de la pénurie de carburant et du coût de l'énergie? Vicied, écoute, normalement, cette émission ce soir, l'événement sur France 2, est consacré aux questions internationales. Et en même temps, un président de la République, en direct, à une heure de grande écoute, en pleine crise de la pénurie de carburant, avec les scènes qu'on voit dans les stations-service, avec la question des réquisitions de certains sites de raffinage et de dépôt de carburant, je ne vois pas comment il pourrait ne pas en parler. Et je ne vois pas comment Caroline Roux ne pourrait pas lui poser une question. J'ai envie de répondre oui à ta question, mais on va voir ça dans un instant, peut-être d'une minute à l'autre d'ailleurs. Merci Moatib de rien. Les questions sont connues à l'avance par le président ou il les découvre comme nous? Normalement, dans l'éthique du journalisme, l'invité ne doit pas avoir les questions avant. Ça, c'est vraiment c'est la base. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La règle, c'est que l'invité n'a pas les questions, il peut émettre des souhaits quant aux thématiques abordées, voilà. L'intervieweur, ah, attendez, je me mets sur France 2 parce que ça va partir, je pense, c'est parti.
Mais on imagine que vous ne ferez pas l'impasse sur les pénuries de carburant.
Caroline Roux qui va interviewer.
Naturellement, nous allons évoquer les pénuries de carburant. Macron. Nous évoquons aussi naturellement la crise en Ukraine et ses conséquences dans la vie des Français. L'événement, c'est maintenant.
Donc, vous avez vu, on va parler notamment de la crise des carburants.
The front lines was hit. Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères. Nous avons affaire à des terroristes.
Le Japanese government says a North Korean missile has flown over Japan.
Women, life.
Le chaos climatique avance au galop, mais l'action climatique, elle, est au point mort.
Nous n'acceptons pas ce référendum honteux.
Nous avons aujourd'hui à faire un choix, celui de la guerre ou de la paix.
Bonsoir, Monsieur le Président.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Télévisions. Nous allons commencer cette interview naturellement par la crise en Ukraine. Une première question très directe. La Russie est-elle devenue un État terroriste?
Ça commence fort.
Je ne veux pas rentrer dans ces qualifications, d'abord parce qu'ils ont peu de conséquences. La Russie a fait le choix, le 24 février dernier, de déclencher une guerre de manière unilatérale contre un pays voisin, l'Ukraine. Et elle a mis en danger tout un peuple et le continent. Et donc, aujourd'hui, la Russie est un État qui a décidé de faire la guerre, qui tue sur le sol, qui agresse et qui a violé la souveraineté de l'Ukraine.
Les Ukrainiens parlent d'État terroriste, précisément.
C'est exact. Moi, je parle de crimes de guerre qui, aujourd'hui, laissent des traces. Ouais. Et d'ailleurs, pour lesquels nous aidons les Ukrainiens à travailler. Nous avons dépêché des magistrats, des gendarmes, mais je suis toujours très prudent. C'est la justice internationale qui doit ensuite qualifier les choses. Il y a un État qui a déclaré la guerre et c'est déjà, si je puis dire, bien suffisant.
Vous êtes en train de dire que Vladimir Poutine devra répondre de ses crimes de guerre.
Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions. Cette table qu'il a occupée naguère et ces discussions qu'il a acceptées aussi.
Nous allons revenir sur les discussions. Vous avez une phrase ces derniers jours, après des bombardements massifs sur des villes ukrainiennes. Vous avez dit, c'est un changement profond de la nature de cette guerre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ce qui s'est passé, on a tous vu ce qui s'est passé samedi. Le pont de Kerch qui a explosé. Et si une carte peut le montrer, ce pont est celui que Vladimir Poutine avait décidé pour rattacher la Crimée au sol russe. C'était un acte fort. À l'époque, donc dès après 2014, et l'annexion déjà par le début, une première phase de la guerre en 2014. Bon. Là, il a sauté. Cette action n'a pas été revendiquée. Et ce qui s'est passé à partir de dimanche soir et lundi, et ce qui se passe depuis, c'est une phase inédite depuis le début des conflits de bombardements. Bombardements qui se sont organisés depuis la terre, la mer, les airs, par drones également, contre des infrastructures essentielles et contre des civils. C'est-à-dire que pour la première fois, partout sur le sol ukrainien, on a tué des civils de manière résolue avec un tel niveau de bombardement, mais on a aussi fait sauter ce qui permet d'électrifier, ce qui permet de se chauffer. Et donc, l'objectif de la Russie ces derniers jours, très clairement, c'est de casser la résistance, c'est de briser la résistance ukrainienne. Et ce qui est très nouveau, c'est que pour la première fois, d'abord, il y a eu depuis le 24 février autant de bombardements et surtout sur autant de cibles dans des villes différentes
et
des cibles civiles.
Et donc, qu'est-ce que ça change à notre réponse, à la réponse des alliés de l'Ukraine que nous sommes?
En matière
notamment de livraison d'armes, rentrons peut-être dans le détail, puisque le président ukrainien attend des choses de nous. Il nous l'a dit.
Ça, c'est important.
Il nous dit, je veux une réponse forte. Il demande un bouclier aérien pour se protéger des bombardements russes. La France va-t-elle accroître son aide, fournir des batteries de missiles anti-aériens, fournir davantage de canons César?
Annonce ou pas? Écoutez.
D'abord, ça change une chose, c'est qu'on s'installe dans la guerre. Je pense que c'est important que les Françaises et les Français se rendent compte. C'est-à-dire que le choix qui a été fait par la Russie ces derniers jours, c'est cela. Après les contre-offensives ukrainiennes des dernières semaines qui ont repris du territoire dans le Donbass, donc à l'est de leur territoire, le choix de la Russie a été de décider une mobilisation donc des jeunes Russes pour aller combattre. Ça a été d'organiser des référendums qui n'ont aucun statut légal et donc d'annexer dans le Donbass ces territoires. Et ça a été de lancer ces bombardements, ces attaques, donc y compris par drones, qui ont touché les civils et qui cherchent à plonger dans l'obscurité, le froid et la détresse les Ukrainiens. Face
à ça,
nous, qu'est-ce qu'on fait?
On
va continuer et intensifier la même logique.
Écoutez.
Je le dis depuis le début, nous soutenons l'Ukraine dans sa résistance sans participer à la guerre. Et donc par une logique. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas de guerre mondiale. Il faut être responsable.
Ouais, ouais.
Et c'est aussi ça, protéger les Françaises et les Français.
Les Russes considèrent qu'on participe à cette guerre. Mais
les Russes sont dans une logique parallèle.
Cible l'Occident très
régulièrement. Les Russes sont dans une logique parallèle. Et ils ont besoin de ce récit pour expliquer à leur peuple ce qui se passe. Nous essayons d'avoir une approche qui a quelque chose à voir avec le réel. La vérité, c'est est-ce que la France, d'autres pays européens sont en train aujourd'hui de menacer le sol russe? La réponse est non. Nous avons livré des armes et aider économiquement et sur le plan humanitaire l'Ukraine pour résister. Et donc,
sur la livraison d'armes, on est attendu. Ils vous ont d'ailleurs envoyé un message avec un peu d'humour aujourd'hui, les Ukrainiens.
Nous soutenons la résistance
qui était aussi
sans participer à la guerre.
Donc sur les deux questions que je vous ai posées, sur les canons César et également
sur
les boucliers anti-aériens et les missiles anti-aériens.
Les deux réponses sont oui. Nous avons livré depuis le début de la guerre, vous savez, plusieurs équipements, des équipements, du carburant, des véhicules blindés, beaucoup de missiles, pour se protéger, et ces fameux canons César. Et vous avez raison de le dire, les Ukrainiens nous ont remerciés à plusieurs reprises, dont ce matin, parce qu'ils ont été décisifs dans la contre-offensive dans le Donbass. Et donc ces canons, ça c'est la référence en effet à ce qui a été lancé, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté pour nos téléspectateurs. Ouais. Nous allons continuer. Et donc on travaille en ce moment à la livraison de canons César additionnels. On en a livré 18. On est en train de travailler à la livraison de 6 canons additionnels avec le Danemark. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des canons qu'on a produits qui étaient destinés à l'armée danoise. Et on est en train d'essayer de les produire en parallèle et de les livrer tout de suite aux Ukrainiens. Ce qu'on fait en même temps, et ce qu'on va livrer, ça ne dépend de personne d'autre que de nous, ce sont des radars, des systèmes et des missiles pour les protéger justement de ces attaques.
Et donc, missiles antiaériens ?
Oui, tout à fait. Donc ça, on l'a déjà fait, on va l'intensifier. D'accord. Donc des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles. Mmh. Et donc ça, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Et en parallèle, on livre, mais également nous formons.
Est-ce qu'on peut livrer plus d'armes aux Ukrainiens sans se rendre nous-mêmes vulnérables ?
C'est exactement le problème qu'on se pose à chaque fois. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas livrer autant que parfois les Ukrainiennes et les Ukrainiens le demandent.
Donc pas
le président Zelensky parfois me demande de livrer massivement certains dispositifs. Je suis obligé d'en garder certains pour nous-mêmes nous protéger ou protéger notre flanc Est. C'est ce qu'on a déployé par exemple en Roumanie ou dans d'autres pays. Parce qu'en même temps qu'on aide l'Ukraine à résister sur son sol, jamais à attaquer la Russie, c'est ça la différence. Eh bien, nous protégeons notre sol national. On protège.
Certains attendaient des annonces sur les chars qui pourraient être livrés. Des chars Leclerc, c'est pas pour ce soir, a priori.
Et depuis le début de la guerre, la France a été ce qu'on appelle la nation cadre d'une initiative de l'OTAN en Roumanie, et nous avons déployé dès les premiers jours plusieurs justement de nos soldats et des équipements très importants en Roumanie, donc à la frontière la plus à l'est de notre Union européenne et de l'OTAN.
Et ça a été renforcé ces derniers jours.
Nous l'avons renforcé ces derniers jours en décidant d'envoyer des chars Leclerc. On renforce notre présence.
Avec quelle urgence d'ailleurs ?
Ça va être dans les prochaines semaines.
Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on renforce notre... Vous dites qu'on n'est pas en guerre, mais on renforce quand même notre flanc est
de
l'OTAN.
Parce que, comme je vous le dis, l'intensité des bombardements et des combats a changé. Et donc nous devons, nous, renforcer la posture. C'est ce qu'on fait en Roumanie, c'est ce qu'on fait en Estonie, c'est ce qu'on fait aussi en Lituanie, avec des rafales qui seront justement déployées.
Est-ce que nous fournissons du renseignement aux Ukrainiens, des images satellitaires ?
Nous fournissons du renseignement pour que les Ukrainiens puissent se défendre, mais de cela, il est bon de ne pas trop parler.
Est-ce que vous pouvez nous assurer, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas un membre de l'armée française, des forces spéciales engagées en Ukraine ? Et est-ce que vous pouvez nous assurer que cette règle est respectée par les autres pays de l'OTAN ?
Je ne peux pas ici prendre des engagements pour les autres. Je peux vous dire que nous avons les forces qui sont déployées, y compris à la frontière, que nous avons parfois des actions de formation, mais que nous ne sommes pas partie prenante de la guerre.
La Biélorussie d'Alexandre Loukachenko annonce un groupement militaire commun avec la Russie. Est-ce que c'est une extension du conflit que vous craignez ?
Je pense que ça fait partie des risques et que la Biélorussie a été complice dès le début, je dirais même dès avant. Rappelez-vous, quelques semaines avant le début du conflit, les pressions qu'il y avait sur la frontière polonaise, sur la frontière des États baltes.
Je fais pause quelques secondes, comme ça on ne perd pas l'essentiel des déclarations. Donc on reprend là où le président Macron vient de s'arrêter. Juste pour vous dire que sur la question des livraisons d'armes supplémentaires à l'Ukraine, qui était une des questions de ce soir, il n'y a pas d'annonce forte. Il y a l'annonce des 6 canons César additionnels avec le Danemark qui était prévu pour le Danemark. Mais on ne va pas plus loin, donc il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau. On reprend l'émission.
De femmes et d'hommes qui étaient envoyés là par la Biélorussie et la Russie et qui venaient souvent de Proche et du Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. On a utilisé ces femmes et ces hommes dans la détresse pour mettre de la pression. Ensuite, la Biélorussie, dès le début du conflit, a permis à la Russie de masser des soldats et de mener une offensive dès fin février, début mars, par le nord. Et Kiev a presque été pris. Et c'est la résistance extraordinaire des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui a permis une première contre-offensive fin mars, début avril et qui a libéré tout le nord du pays.
Et donc
là, à nouveau, on a des forces qui sont massées et donc il faudra être très vigilant. Maintenant, je sais aussi qui sont les femmes et les hommes qui vivent dans ce pays. On ne peut pas oublier les élections il y a quelques mois qui n'ont manifestement pas été gagnées par le président Loukachenko, qui a été d'abord le début de sa décision. On ne peut pas oublier non plus que c'est un pays qui regardait vers l'OTAN il y a encore quelques années à peine, et qui se méfiaient de la Russie. Et donc tout ça se fait sous la pression russe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fragilités. Et donc à chaque fois que si le président Loukachenko, vous voyez là, décide de s'engager encore davantage dans cette guerre, il le fera contre l'avis d'une bonne partie de son peuple et il le fera en prenant une responsabilité qui ne sera pas, je pense, sans lui poser des problèmes.
Il aura des sanctions.
Il en a déjà.
Il en a déjà, il en aura davantage. Décidé.
Bon. Nous avons pris des sanctions contre la Biélorussie lorsqu'il y a eu ce coup de force de président Loukachenko qui a bafoué complètement le résultat des urnes à l'automne dernier. Et son pays est toujours sous sanctions. La Russie est aussi sous sanctions, je le rappelle. Nous avons pris 8 trains de sanctions.
Et on va en reparler naturellement des sanctions et qui ont des conséquences dans la vie des Français. Les Français, ils ont
surtout d'abord... Attendez.
On va en parler, je sais ce que vous voulez dire.
Ils ont surtout des conséquences sur l'économie de la Russie.
Et on va en parler en entre dans le détail. On aura des chiffres. Vous nous expliquerez quelle est votre lecture des faits. Joe Biden a évoqué le risque d'apocalypse nucléaire. Les Français, ils ont entendu cette expression. L'apocalypse...
Quelques secondes de pause avant de parler du risque de nucléaire. La Biélorussie est susceptible d'entrer dans le conflit côté russe. Voilà. Si le président Loukachenko, qui est le président biélorusse, prenait cette décision, le président Macron annonce qu'il y aura des sanctions. C'était juste pour vous cadrer ces quelques mots d'échange sur la Biélorussie. La question du risque nucléaire, à l'instant, question de Caroline Roux.
Nucléaire, l'Armageddon. On a entendu également Vladimir Poutine régulièrement agiter la menace nucléaire. Qu'est-ce que vous dites aux Français pour les rassurer ce soir? Est-ce qu'on peut se contenter de dire ils bluffent?
J'ai toujours dit la vérité aux Françaises et aux Français. Ce qui se passe en Ukraine nous touche pour trois raisons principales. La première, c'est évidemment qu'un pays de notre continent est attaqué. Oui. Et que son intégrité territoriale, ses frontières, ont été violées par le voisin. La deuxième, c'est nos principes qui sont attaqués. Ce qui fonde notre droit international, ce qui justifie encore plus notre solidarité. Il n'y a pas d'ordre international si on laisse le plus fort envahir celui qui est le plus fragile et ne pas respecter les frontières. La troisième, c'est que la Russie est ce qu'on appelle un État doté. Ils ont l'arme nucléaire.
Comme la France.
Nous l'avons aussi, ce qui est une force, une protection. Je pense qu'en la matière, il y a une règle simple qui prévaut depuis le début. On a une doctrine, elle est claire, moi je l'ai exprimée pour ce qui est de la France. La dissuasion fonctionne, mais ensuite, moins on en parle et moins on agite la menace,
mais
plus on est crédible.
Mais le problème, c'est que tout le monde en parle désormais. En tout cas, les États-Unis en parlent. Trop de gens en parlent. Et bien, on va continuer à en parler parce que la France, vous l'avez dit, est une puissance nucléaire. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'une frappe tactique de la Russie serait considérée par la France comme une attaque nucléaire?
La France a une doctrine nucléaire, je le disais. Et notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire. Mmh. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Par contre...
Ça n'appellerait pas une riposte nucléaire conventionnel.
D'évidence, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis.
D'accord.
Nous avons un cadre pour ce qui nous concerne. Mais ce serait une responsabilité historique de la part de la Russie. Et c'est ça ce que je veux dire.
Juste une pause là-dessus, c'est essentiel. La question de Caroline Roux, c'est est-ce qu'une attaque nucléaire tactique, une frappe tactique, hein, c'est-à-dire avec pas une bombe Hiroshima-Nagasaki, mais une bombe, un missile nucléaire plus petit pour détruire... non pas au niveau d'un pays ou d'une ville, mais de façon plus ciblée, est-ce que ce serait considéré comme une attaque nucléaire par la France? La réponse est très claire, c'est non. Voilà. Puisque c'est l'une des questions. Hein. Attaque stratégique ou attaque tactique? Attaque stratégique, la bombe nucléaire, la grosse, Nagasaki, Hiroshima ou plus gros, voilà. Ou tactique, plus ciblée, plus petite? Et la réponse du président, c'est, il vient de répondre, ce ne serait pas considéré comme un engagement, ça n'impliquerait pas un engagement, une réponse, pour le coup, importante au niveau nucléaire de la France. On continue.
Et qu'en tant que puissance dotée, la Russie a cette responsabilité. Et Vladimir Poutine le sait. Et donc...
Vous en avez parlé avec lui?
À plusieurs reprises.
De ce sujet?
Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours considéré... que nous devions être dans une posture qui consiste à aider l'Ukraine à résister, à bâtir la paix, mais à éviter toute escalade du conflit. Et vous le voyez là, c'est-à-dire que ce qu'on doit faire, c'est que ce conflit puisse retrouver évidemment la paix, la stabilité de notre continent, mais ne s'étende ni géographiquement, évidemment au reste de l'Europe, ni ne s'étendent ce qu'on appelle verticalement, c'est-à-dire par l'emploi d'armes chimiques ou nucléaires qui en changeraient la nature. Parce que nous les avons proscrites, là aussi, dans notre ordre international.
Alors, il y a une autre manière de faire la guerre. Ça s'appelle la guerre hybride. Le gazoduc Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés. En Allemagne, des câbles sectionnés ont provoqué une panne massive, c'était il y a quelques jours, hein, sur le réseau ferroviaire. Aujourd'hui, on apprend qu'une fuite a endommagé un oléoduc qui relie la Russie à la Pologne et à l'Allemagne. Est-ce que vous redoutez, pour la France, des attaques sur des sites stratégiques?
Alors, d'abord, je pense que sur ces sujets, il faut être très prudent dans l'attribution de ces actes. Les pays qui ont été touchés ont été eux-mêmes très prudents. Et donc, il ne s'agit pas de se précipiter à dire qui les a faits. Ensuite, oui, nous sommes dans une guerre hybride. Qu'est-ce que ça veut dire, une guerre hybride? Ça veut dire qu'on n'utilise pas simplement les armes et la guerre sur le sol, mais qu'on utilise l'arme informationnelle, et la Russie le fait dès avant, en diffusant de la propagande, en le diffusant sur les réseaux sociaux, par des chaînes de propagande que nous avons coupé sur notre sol, mais qui continue encore à trouver des voies pour émettre,
RT.
En payant, et Spoutnik, en payant chaque jour des gens pour essayer de faire leur influence, en ayant des comptes et en agressant sur les réseaux sociaux, en utilisant l'arme migratoire, en utilisant le chantage énergétique, en utilisant l'arme alimentaire, et en utilisant, en effet, potentiellement, les attaques sur des éléments de vulnérabilité. Et donc, oui.
Donc vous les craignez, ces attaques sur des sites stratégiques
français?
Mais donc,
nous devons tous, de toute façon, quelle est la leçon à tirer à la fois de cette guerre, de ce que nous avons vécu avant avec la crise du Covid et du nouvel ordre du monde, ce monde en crise, puisque c'est le titre que vous avez choisi. C'est un monde où nous devons bâtir davantage notre indépendance et où nous devons corriger nos vulnérabilités. Et donc nous avons ce qu'on appelle des sites critiques sur notre sol national, nos hôpitaux, nos sites informatiques, tout ce qui fait tourner la vie de la nation. Ça, on les protège. On n'a pas attendu cette guerre. On investit pour la résilience à la fois physique et cyber, c'est-à-dire numérique. Et puis, nous avons des infrastructures essentielles qui sont hors de notre sol. Des câbles, des satellites, des gazoducs, des oléoducs.
Vous avez renforcé la protection de ces sites stratégiques donc, critiques depuis le début de la guerre?
Nous les renforçons depuis le début de la guerre. Et surtout, c'est quelque chose que nous devons faire en européen, parce que là aussi, la carte le montre très bien. Nous avons besoin d'avoir cette approche européenne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu cette communauté politique européenne que j'avais proposée au printemps dernier, que nous avons réunie à Prague, oui, il y a quelques jours. Parce que quand on regarde une carte, on voit que nos vulnérabilités, quand on parle d'énergie, quand on parle de technologie, quand on parle justement de la manière dont notre continent... Il faut rassembler tous les pays du continent. Oui, on avait les 44 pays de ce continent, pas simplement notre Union européenne. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a décidé des actions communes pour mieux protéger, par exemple dans la Baltique ou la mer du Nord, avec la Norvège, avec d'autres pays, avec des pays de l'Union européenne, avec nos amis britanniques, des patrouilles communes. C'est aussi pour ça qu'on a décidé la même chose dans la Méditerranée orientale, pour ne prendre que deux exemples.
Est-ce que vous parlez encore à Vladimir Poutine? C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé?
Je lui ai parlé il y a quelques semaines pour permettre de protéger la centrale de Zaporizhzhia, qui se trouve dans la zone de conflit, et pour le convaincre d'accepter une mission...
Qu'il a annexé, là aussi. Hein. Il a dit...
C'est tout à fait vrai. C'était avant le référendum. Donc nous le contestons, nous ne le reconnaissons pas. Mais depuis le début du conflit, la France s'engage pour essayer d'éviter que cette guerre ne se double d'une guerre nucléaire par le nucléaire civil, et donc pas par des attaques. L'Ukraine est un territoire qui, au moment de l'Union soviétique, a été équipé par des centrales nucléaires. Nous nous en souvenons, la centrale de Tchernobyl, par exemple, est sur le sol ukrainien. Et donc, c'est pour ça que, dès le mois de mars, la France s'est engagée pour aider l'Agence internationale de l'énergie atomique à procéder à des missions et à s'assurer que la communauté internationale puisse regarder que la sûreté et la sécurité étaient préservées.
Est-ce que vous en êtes absolument sûr? C'était la question que je vous posais sur Vladimir Poutine et, vos discussions.
Mais je vais vous dire, de manière très concrète, je l'ai appelé il y a quelques semaines.
Oui.
Et donc, après qu'on ait découvert les scènes absolument terribles à Boutcha et ailleurs. Et on a eu une discussion à nouveau très longue, de 2 heures. Et je l'ai convaincu d'accepter cette mission du directeur général. J'ai convaincu aussi le président Zelensky, puisqu'il est passé par le sol ukrainien. Et donc, il y a eu une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'est rendue à Zaporizhzhia. Donc, vous le voyez, cette centrale qui est
mini-pause, une déclaration qui me semble importante, c'est quand le président Macron dit que la dernière fois qu'il a parlé au président Vladimir Poutine, c'était il y a quelques semaines. On se rappelle qu'au début de la guerre, le président Macron a tenu à garder le canal de la discussion ouverte avec Vladimir Poutine. Certains ont dit que c'était bien, d'autres l'ont critiqué, en estimant qu'il fallait ménager une porte de sortie à la Russie pour sortir de ce conflit. Là, une info que je trouve importante, c'est quand le président Macron dit « je ne lui ai pas parlé depuis plusieurs semaines ». C'était à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. On reprend le direct.
Et dans la région du Donbass.
Et il a revendiqué la maîtrise de cette
centrale. Mais ce sont deux choses différentes. Ça, nous le nions. Mais il y a une chose qui est encore plus grave. C'est qu'ils mettent en danger la sûreté de cette centrale. Et c'est qu'en empêchant les personnels qui y travaillent, ou en coupant certaines alimentations, qu'il y ait un phénomène nucléaire qui produise un incident nucléaire grave qui contamine les personnes qui vivent et toute la région. Non, mais il faut quand même hiérarchiser les choses. Donc là, il y a eu un geste politique, un référendum sans légitimité et légalité internationale qui fait qu'il revendique ce territoire, ce que nous ne reconnaissons pas, ce que l'Ukraine ne reconnaît pas. Mais nous avons obtenu cette mission et au moment où je vous parle, il y a toujours des personnels internationaux qui sont dans la centrale et qui peuvent alerter si les règles de sécurité et de sûreté ne sont pas reconnues. Donc oui, il y a un conflit, un désaccord profond. Il a annexé ce territoire. Nous ne le reconnaissons pas. Mais au moins a-t-on obtenu une mission internationale.
Mais vous le reconnaissez toujours comme un interlocuteur, Monsieur le Président. Volodymyr Zelensky a signé un décret après les référendums d'annexion organisés dans 4 régions. Il sera désormais impossible légalement pour l'Ukraine de négocier quelques textes que ce soit, avec la Russie. Il y a un ancien président français qui dit, François Hollande, dans son livre « Bouleversement », il dit « Emmanuel Macron a toujours eu pour Vladimir Poutine un certain nombre d'indulgences ».
Écoutez, je ne ferai pas de commentaires sur les commentaires. Je suis en responsabilité. Quand on est en responsabilité et qu'on essaie, quel est notre objectif ? De bâtir la paix. En tout cas, de la faire revenir. On doit parler. Et donc, on doit parler aux protagonistes.
Donc, vous continuerez à lui parler.
Mais bien
c'est
évidemment,
parfaitement clair.
À chaque fois, je vais vous dire deux choses. À chaque fois que cela sera nécessaire, je parlerai à Vladimir Poutine. Et à un moment donné, j'espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussion. Et il y aura une discussion de paix avec d'un côté l'Ukraine et de l'autre côté la Russie.
Et pour négocier quoi ? Et on va en parler si vous le voulez bien. Nous allons retrouver maintenant Anes Varamian, notre envoyé spécial à Kramatorsk. C'est dans le Donbass. Vous avez rencontré Agnès avec Soufiane Yassine et Pavlo Yurov, des soldats ukrainiens qui mènent la contre-offensive.
Oui, exactement. Vous savez, Caroline, cela fait 7 mois que nous côtoyons ces soldats. Nous les avons laissés défaits, battant en retraite avant l'été. Nous les avons retrouvés ces dernières semaines, et bien plus vaillants, plus confiants, avec les victoires de Izium ou de Liman. Alors pour vous, eh bien, nous avons mis nos pas dans les leurs tout au long de cette contre-offensive pour entendre la parole de ces patriotes ukrainiens. Quel sacrifice, pour quel territoire, quelles frontières veulent-ils exactement pour leur pays ? Se battent-ils pour eux-mêmes seulement ou un peu pour nous et avec nous? Regardez ce reportage donc réalisé avec Soufiane Yassine et Pavlo Yurov.
Se mettre dans les pas des soldats dans Barmout bombardé.
Ils ont tiré un missile ici. Il y avait des gens en sous-sol, mais il n'y a pas eu de mort.
Juste quelques secondes, un mot sur la forme de l'interview. Certains saluent le travail d'interview de Caroline Roux, d'autres estiment, je vous lis, hein, que c'est une interview agressive. Moi, en tant que journaliste, je trouve que Caroline Roux est parfaitement dans son rôle, et je ne dis pas parce que c'est une consoeur et qu'on travaille pour le même groupe. Pourquoi ? Parce que une interview politique, ce n'est pas un exercice de communication de la personne qui est interviewée. Il ne faut pas lui laisser dérouler ses éléments de langage, comme on dit. Voilà, une question appelle une réponse précise. Quand Caroline Roux estime que la réponse n'est pas claire ou n'est pas faite, eh bien, elle relance. Je trouve de façon assez, assez apaisée, en fait. À mon sens, c'est une excellente interview. Évidemment, c'est mon regard. On continue de regarder le reportage.
Dans cette ville, la contre-offensive ukrainienne est ralentie. L'armée de Kiev a du mal à avancer.
Ici, on est face à la milice de Wagner. On a même dû battre en retraite pour protéger nos soldats.
À quelques kilomètres de Barmout, la percée a pourtant été spectaculaire. Près de ce ponton, des soldats, impatients de poursuivre la reconquête.
On a pris Liman, après c'est Krimna, et Lysychansk. Pour tout le territoire, je nous donne un an.
En quelques jours, en septembre, les Ukrainiens ont repris plus de 2000 km² de territoire.
On va les repousser encore plus loin, jusqu'à nos frontières. On ne lâchera rien.
Jusqu'où iront-ils et à quel prix? Dans les troupes de la contre-offensive, il y a Genia, jeune soldat de 26 ans. Il est tombé dans une embuscade en mars.
On s'est retrouvé face à un char. Leur mitrailleuse m'a atteint aux jambes.
4 balles, 3 semaines d'hôpital et un retour sur le front.
Je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour notre liberté.
Sur la route de la contre-offensive victorieuse de ces dernières semaines, il y a aussi un peu de la France avec ses canons César.
On s'est formé en France, on a appris très vite à le manier, c'est un canon très efficace.
Une arme qui, depuis 4 mois, pilonne les stocks de carburant, les lignes d'approvisionnement.
Certains dans le chat demandaient tout à l'heure ce qu'était le canon César de conception française, et bien le voici. C'est une arme puissante et extrêmement précise, quoi, qui a été, dont l'emploi a été vraiment salué par les forces ukrainiennes.
Visionnement russe à l'obus de 155 mm.
Oui, on a besoin de toujours plus de munitions.
Jusqu'où les Ukrainiens iront-ils avec ces armes françaises? Tous nous parlent des frontières de l'Ukraine définies en 1991. Alors nous posons la question de la reprise de la Crimée.
Moi, je ne sais pas ce qu'en pensent les Français, mais je veux reprendre la Crimée. Je veux pouvoir combattre avec ce canon jusque là-bas.
Et si la France disait non? Et si la France ne partageait plus les buts de guerre de l'Ukraine?
Attendez, ça c'est une question compliquée. Comment il pourrait dire cela puisque ces armes, elles nous appartiennent désormais?
Aucun des 18 canons César livrés à l'Ukraine n'a été endommagé ou détruit par les forces de Moscou.
Alors, monsieur le Président, partageons-nous tous les buts de guerre de l'Ukraine et allons-nous aider ce pays à reconquérir la Crimée?
Une question
Merci
essentielle.
Beaucoup et j'en profite à travers cet écran pour vous remercier avec tous vos confrères de couvrir avec beaucoup de courage ce conflit. Je pense que c'est important pour tous nos compatriotes de pouvoir suivre ce qui se passe, d'avoir un rapport avec le réel et le terrain et ça nécessite beaucoup de courage et j'ai une pensée aussi pour certains de vos confrères qui sont tombés, je pense en particulier à notre jeune journaliste français.
Alors,
écoutez, ça a été très bien dit, nous ne faisons pas partie de cette guerre. Je le redis, nous ne sommes pas en guerre. Nous avons équipé l'armée ukrainienne. Nous n'allons pas reprendre les équipements, ils sont là. Et nous aidons l'Ukraine à résister.
Mais sur les buts de guerre.
Et donc à un moment donné, non mais les buts des Ukrainiennes et des Ukrainiens sont clairs, c'est retrouver leurs frontières de 91. Et donc à un moment donné, simplement dans l'évolution du conflit, il faudra revenir autour de la table. Et donc, la question est de savoir si ces buts de guerre ne seront obtenus que militairement. Moi, je crois qu'à un moment donné, ce sera de l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie de revenir autour de la table et de négocier. C'est exactement ce qui a été fait en 2014. On était dans un autre monde, si j'ose dire. Et donc, cette question de l'intégrité territoriale, qu'il s'agisse du Donbass, qu'il s'agisse de l'Ukraine, c'est d'abord aux Ukrainiens d'en décider. Ça n'est pas à la France ou à qui que ce soit d'autre. Et ce n'est pas parce qu'on livre des armes qu'on peut décider pour eux. Est-ce qu'on aurait, nous, accepté que des alliés qui nous aidaient puissent décider du sort de nos territoires quand ils étaient occupés? Jamais. Par contre, la stabilité de notre continent, c'est notre affaire à tous. Donc à un moment donné, j'espère le plus tôt, ça n'est pas aujourd'hui, ça ne sera pas dans les toutes prochaines semaines. Et donc je pense qu'il faut qu'on s'apprête à passer l'hiver dans ce contexte de guerre, nous le savons, elle va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ce que nous voulons faire, c'est aider les Ukrainiens à résister, garder l'Europe unie et bâtir les conditions pour qu'à un moment donné, parce qu'ils jugeront que les conditions sont là, ils se mettront autour de la table pour négocier avec la Russie le retour à la paix. Et donc à leur intégrité territoriale.
C'est aux Ukrainiens de décider.
Exactement.
Du
mini pause, question de d'Agnès Varamian, envoyé spécial de France 2, qui est extrêmement clair. Est-ce que la France soutiendra les forces ukrainiennes dans leurs opérations de reconquête des territoires pris par la Russie, notamment avec des armes françaises, les canons César qu'on a vu? Réponse du président Macron, ça n'est pas à la France de décider des buts de guerre de l'Ukraine. Le matériel livré reste livré. Donc ça, c'est extrêmement clair, tout en appelant à à ce qu'à un moment les deux parties reviennent à la table des négociations, puisqu'à un moment, c'est certains dans la presse écrite l'écrivaient très très bien ces derniers jours, à un moment il faudra bien sûr sortir de cette guerre. Mais là, le président Macron a semblé dire à l'instant qu'il pensait qu'elle allait durer au moins cet hiver. Je reprends le fil de l'émission qui est en direct sur France 2.
Moment où ils décideront, où ils choisiront de s'asseoir à la table des négociations avec la Russie.
Exactement. Et l'ensemble de celles et ceux pour qui la sécurité et la stabilité est en jeu, nous en faisons partie, seront partie prenante parce que nous aurons vraisemblablement des rôles de garants à jouer. Oui. Et la communauté internationale sera là.
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On en parlait au début de cette interview. Les Ukrainiens ne veulent pas négocier avec Poutine.
Mais il y aura un moment, je vous le dis, les yeux dans les yeux, où il faudra le faire. Parce qu'à un moment donné, et je le dis aussi, parce que c'est pour ça que je me suis toujours refusé à tout discours jusqu'au boutiste. Négocier, ça ne veut pas dire renoncer. Mais ça veut dire que nous devons tout faire pour que la paix revienne en Ukraine et par le respect de l'intérêt et de l'intégrité territoriale de ce pays et de ce peuple qui a montré de manière admirable son courage, son unité, son patriotisme. Et de le faire pour bâtir aussi notre stabilité, notre sécurité dans la durée.
Garder l'Europe unie, on va en parler. Je précise pour les gens qui nous regardent et qui attendent vos réponses sur les carburants que nous allons y venir dans quelques minutes. Mais quand même, l'Europe a décidé d'un 8e paquet de sanctions contre la Russie. Cela n'a pas arrêté Vladimir Poutine. Au contraire, la Russie a empoché 158 milliards d'euros depuis le début de l'année grâce à ses exportations de gaz et de pétrole. Les conséquences, en revanche, de ces sanctions, elles sont très visibles pour l'ensemble des Français. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de stratégie ?
Non, d'abord parce que, est-ce que vous auriez compris que je vienne devant vous en vous disant, on soutient l'Ukraine, on les arme, mais alors l'Europe continue d'acheter 40% de son gaz en Russie. Vous m'auriez dit, vous êtes des fous, des irresponsables, et vous êtes incohérents. Je vous aurais dit, on continue de permettre à des oligarques proches du régime de circuler partout sur le territoire européen, de continuer à faire fortune. Non. Et donc nous avons pris des sanctions ciblées. Pour faire quoi ? Pas du tout contre la Russie ou le peuple russe. J'ai à chaque fois fait cette distinction. Contre les intérêts des plus proches du régime et du système, et pour entraver le financement de l'effort de guerre, et pour un peu bousculer la Russie et le financement de son économie, de son effort de guerre.
Ça a marché ?
Ça a un temps, mais c'est en train de marcher, parce que la Russie aujourd'hui est profondément déstabilisée dans la production, dans la capacité à régénérer ses armes, dans la production et son industrie. Et il faut bien voir une chose, la Russie, là aussi vos cartes le montrent, c'est le plus grand pays du monde, géographiquement. C'est sans doute la deuxième ou troisième armée, selon les critères qu'on prend. Mais en termes économiques, c'est un produit intérieur brut qui est entre celui de l'Italie et de l'Espagne. Et donc, quand en effet on lui met des sanctions, quand en effet on l'empêche de financer aussi facilement son économie, eh bien, ça ralentit sa capacité à faire de l'effort et surtout, avec le temps, ça l'amène à réfléchir. Alors après, nous subissons les conséquences.
Nous subissons avec un risque de voir une fragmentation.
Mais nous subissons, je ne sais pas si on peut convoquer. J'avais demandé qu'il y ait un graphique que la Commission européenne
a fait circuler. Oui, vous êtes venu avec un graphique.
Oui, si on peut le voir. Non, mais il est intéressant parce que je trouve qu'il tord le cou à des idées reçues.
Oui.
Parce que c'est un graphique qui a été.
On va le voir dans
un instant. Qui n'est pas le mien, qui est celui de la Commission européenne, qui montre.
Alors,
ça, c'est la progression des troupes, mais c'est aussi intéressant. Oui. On voit le Donbass et la Crimée, donc à l'est et au sud. Mais si on pouvait voir ce graphique qui donne l'évolution des prix.
Alors.
Et des volumes de gaz.
Qu'est-ce qu'il raconte ce graphique, monsieur le président ?
Vous allez surtout voir à travers ce graphique.
S'il arrive, il va arriver.
On n'a pas le graphique là. Le graphique.
C'est
le
sûr.
Graphique. Le graphique.
C'est Cognac G qui. Il nous entend. Voilà.
Ça y est. Allons-y.
C'est un graphique de la Commission européenne. Il vous donne en bleu le prix du gaz.
Oui.
Et il vous donne en rouge le flux gazier depuis la Russie, qui n'est pas notre décision, qui est la décision de la Russie. D'abord, vous voyez que le prix du gaz, il augmente parce que la guerre est déclenchée. Ensuite, on arrive à le stabiliser. Et cet été, il augmente. Pourquoi ? Parce que la Russie décide de couper ce qu'on appelle le flux Nord Stream, qu'elle limite à 40%.
Oui.
Nord Stream, c'est le gazoduc qui passe à travers l'Ukraine, la Pologne et qui vient alimenter l'Allemagne. C'est la première montée. Et puis, vous voyez qu'il monte ensuite quand elle le relimite à 25%.
Qu'est-ce que vous voulez démontrer ?
Ce que je démontre, c'est que si le prix du gaz augmente, ce n'est pas parce que nous avons mis des sanctions.
Oui.
C'est parce que la Russie a fait du gaz un instrument de guerre.
Et maintenant ?
Et donc,
c'est ça le sujet que se posent les gens qui vous regardent ce soir.
Et maintenant, nous devons nous protéger de cela.
Mais
donc,
comment ?
D'abord, leçon à tirer de ça.
Oui.
L'Europe a besoin d'un sursaut d'indépendance. Vous m'entendez dire ça depuis 5 ans. C'était le discours que je prononçais il y a 5 ans à la Sorbonne. Cette souveraineté européenne, c'est ça.
Et d'unité.
L'Europe a été trop dépendante du gaz russe.
Et d'unité.
Donc qu'est-ce qu'on a fait face à ça?
Oui.
Europe et unité, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a travaillé d'arrache-pied. Car environ 40% du gaz qu'on achetait venait de Russie. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est 7,5%. Donc on a diversifié en allant acheter le gaz ailleurs. Deuxième chose, face à cette augmentation du prix et à cette baisse des volumes, à laquelle nous avons répondu en diversifiant, eh bien maintenant, on doit répondre, c'est ce qu'on a décidé il y a quelques jours, en européen, en réussissant à faire baisser le prix du gaz, négocier avec ceux qui nous le fournissent, les Norvégiens, les Américains. Ce sont des pays alliés, ils font l'effort de guerre avec nous. Ça montre bien nos pays de l'Union européenne, on est tous dans la même situation. Et donc,
on ne réagit pas tous de la même manière, c'est ça qui est intéressant sur la crise énergétique, avec notamment sur la question du blocage du prix du gaz, des Allemands et d'autres qui disent « on n'est pas d'accord ».
Mais vous savez pourquoi? Parce que les Allemands, en fait, sont les plus dépendants du gaz. Et donc, eux, ils ont privilégié quoi? La diversification pour avoir...
Bon, là, c'est un peu plus technique, peut-être. Donc, juste quelques secondes d'explication. La Caroline Roux, ce qu'elle veut savoir, c'est si l'Europe va réussir à rester unie quant aux sanctions prises contre la Russie, notamment sur la question de... du gaz. Voilà, réponse du président Macron tout de suite.
Voir des stocks. Et ils avaient peur que si on bloquait les prix, ils ne puissent plus en avoir du tout. Et ils ne peuvent pas passer du jour au lendemain du gaz à autre chose pour faire tourner leur industrie.
C'est précisément sur la question du blocage du prix du gaz. L'Allemagne a très très peur du blocage des prix du gaz. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de ne pas avoir suffisamment de gaz. Elle préfère le payer ce gaz au prix du marché, au prix fort, parce que l'économie allemande est très dépendante de ce gaz, plus que nous. D'où le risque de division, de tension, pardon pour cette petite explication.
Et défendre leur ménage. Après, il ne faut pas diviser les gens, parce que, je vais vous dire, depuis le début de la crise, nous avons augmenté le gaz que nous faisons venir par un gazoduc qui vient de la Norvège. Et on envoie ce gaz vers la Belgique, les Pays-Bas et vers l'Allemagne maintenant. Mais nous, qui avons un problème d'électricité... Parce que nos centrales, ça n'a rien à voir avec la guerre, mais nous avons 56 réacteurs, il y en a en ce moment qu'une trentaine qui tournent. On a besoin d'électricité, on l'importe de l'Allemagne. Et donc l'Europe, elle est solidaire. Si nous n'avions pas une Europe solidaire et un marché intégré et uni, au moment où je vous parle, nous aurions des vrais problèmes,
et
non d'électricité.
Et on importe du gaz liquéfié des États-Unis qui nous le vendent 4 fois plus cher.
Exactement. Donc,
et ça peut durer.
Nous devons nous battre là-dessus. Donc la réponse des Européens unis face à ce prix du gaz, c'est un... convaincre nos partenaires de baisser le prix. Deux...
Ça ne va pas être simple, mais...
Non, mais vous savez, on est des gros acheteurs. Cette Europe qu'on voyait à la carte, c'est environ 20% du gaz liquéfié mondial et c'est 80% du gaz acheté par gazoduc. Donc on n'est pas producteur, mais on est peu producteur, mais on est des gros acheteurs. Donc un, c'est baisser le prix en négociant. Deux, c'est mettre en place un mécanisme qu'on a déjà fait pour l'Espagne et le Portugal, qui consiste... à mettre un plafond sur le prix du gaz qu'on utilise pour produire notre électricité. Non, c'est très important ce que je vous dis. Parce que ça veut dire que...
Est-ce que ça fait baisser les prix pour les Français?
Oui, ça fait baisser les prix parce qu'il se trouve que nous, notre électricité, elle dépend très peu du gaz. Or, le prix s'envole à cause du...
Quelques secondes de pause, je vois beaucoup qui s'interrogent sur pourquoi autant de centrales nucléaires actuellement à l'arrêt en France. C'est très simple. Une partie, c'est pour des révisions en fait, qui étaient prévues depuis longtemps et que la crise sanitaire a reporté pour partie. Donc ça, c'était des révisions importantes prévues. Et pour d'autres, ce sont des micro-fissures, des problèmes de corrosion, si je ne dis pas de bêtises, qui sont apparues. Voilà, donc c'est un nombre très très important. Certaines devraient redémarrer a priori bientôt.
Du gaz. Donc, deux, c'est mettre en place à court terme ce mécanisme, mais c'est surtout, parce que nous l'avons obtenu dès le début de l'année prochaine, obtenir un changement en profondeur du marché européen de l'électricité qui va nous permettre d'avoir plusieurs prix d'électricité, et pour nous, Français, d'avoir un prix d'électricité qui ne dépendra plus du prix du gaz, très très peu, parce que nous, on produit notre électricité comment? C'est ça qui est intéressant. Aux trois quarts quasiment par le nucléaire, par nos renouvelables, nos éoliennes, notre solaire, par notre énergie hydroélectrique et très marginalement par le gaz.
Monsieur le Président.
Et derrière ça, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on fait. Parce qu'à court terme, ce qu'on fait en parallèle de tout ça, c'est que nous, et la France a été la première à réagir en Europe, nous avons aidé nos compatriotes, nous avons aidé nos entreprises et les ménages pour pas que le prix de l'électricité s'envole. Et
là où ils ont un autre problème, les Français.
Et là où il s'est envolé chez tous nos voisins, Chez nous, nous l'avons
plutôt. Monsieur le Président, ils ont un autre problème en ce moment, les Français, et vous le savez bien, la pénurie de carburant. Le mouvement social s'étend. 6 des 7 raffineries sont en grève. Votre Première ministre a annoncé la réquisition du personnel des sous ExxonMobil après la conclusion d'un accord, ce qui n'est pas encore le cas, un accord qui n'est pas encore signé chez Total. La question que se posent tous les gens qui vous regardent ce soir, le retour à la normale, c'est pour quand ?
Il sera dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi ? D'abord, je vais être très clair. Ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans 2 entreprises, Esso Exxon et Total, qui ont fait des profits importants, parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu des débats salariaux.
Oui.
Et ils ont tardé. Et donc là-dessus, moi, ce que je souhaite, c'est 2 choses. C'est d'abord un appel à la responsabilité.
À qui ?
Mais aux dirigeants de ces entreprises et à leurs salariés, aux syndicats qui les représentent.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire que quand je regarde Esso, ils ont obtenu ces derniers jours un accord majoritaire avec les syndicats les plus réformistes, et je les en remercie collectivement, qui a contribué à ce qu'il y ait un partage de la valeur qui a été créé et qui a conduit à ce que les syndicats majoritaires signent. Il y a d'autres syndicats qui ont refusé, qui ont dit on va quand même bloquer. Là, de manière tout à fait logique.
C'est la CGT.
De manière logique, sur certains sites, Port-Jérôme, pour ne citer que celui-ci, la Première ministre a pris une décision de réquisition. Il fallait le faire parce qu'on ne peut pas laisser le pays bloqué parce qu'il y a quelques personnes qui veulent aller encore plus loin, alors qu'un accord a été trouvé et a été signé.
Quatre salariés.
C'est bien de donner les noms. Donc, mais oui, mais ça veut dire que ça tient à très peu de gens. Et donc, on ne peut pas accepter cette situation du pays. Ensuite, les négociations, enfin, ont été entamées chez Total. Et je remercie toutes celles et ceux qui y ont contribué ces derniers jours et ces dernières heures. Au moment où je vous parle, je comprends qu'il y a des discussions bilatérales qui sont là. Moi, ce que je veux, c'est que dans les prochaines heures, ils puissent trouver un accord. Parce que c'est d'abord par l'accord et le dialogue social qu'on doit réussir.
Avec une augmentation légitime des salaires, c'est ce que vous
c'est
dites,
pas 10%. Au président de la République de faire les négociations d'entreprise.
Le président de la République a sans doute la responsabilité, comme le gouvernement, de faire en sorte d'anticiper pour qu'on n'arrive pas à une situation comme celle-ci.
Non, je veux bien que nous soyons dans un pays où on pense que tout dépend du président de la République et du gouvernement.
Ça ne dépend pas de vous, ce qui
mais
se passe.
Mais nous ne sommes pas, je le dis vraiment, au moment où nous avons la guerre, ces crises et cette bouscule complète, ce bouleversement du monde, chacun doit être, si je puis dire, à sa place et prendre toutes ses responsabilités. Quand il y a une entreprise, cette entreprise, elle a des dirigeants, elle a des salariés, elle a des actionnaires. Et il y a un dialogue avec les actionnaires, il y a un dialogue social. Ce dialogue social, il doit vivre. Et personne ne doit aller, doit en quelque sorte sortir de sa responsabilité, soit pour dire, moi je discute pas avec vous, quand on est patron, ou quand on est salarié, bah on peut bloquer le pays, donc on va encore demander plus.
C'est juste qu'on aurait pu faire les réquisitions avant.
Mais pardon, non,
non,
non et non, parce que c'est trop facile. Parce que vous m'auriez dit à ce moment-là, mais pourquoi vous empêchez le dialogue social de se faire ? C'est au dialogue social, nous y croyons et nous le voulons. Pourquoi dans tous les pays du monde, ce dialogue social pourrait se faire et pas chez nous ?
À votre avis, vous répondez à la question que vous posez vous-même ?
Mais parce que je pense qu'il y a une part d'esprit de facilité, d'habitude qu'on a prise, et je pense qu'il y a des secteurs et certains acteurs qui considèrent qu'on peut aller dans le dur tout de suite, pour parler familièrement. Donc je les appelle...
La culture de la grève ?
À la responsabilité. Non mais de la dureté du dialogue, de part et d'autre, parce qu'on n'arrive pas à ces situations quand il n'y a qu'un côté. Et donc je pense que c'est important que la direction se remette autour de la table, discute. Je comprends qu'en plus, elle a les intentions de...
Vous leur avez dit
d'aller
Vous l'avez dit à
la Première ministre et au ministre de le faire, et ils l'ont fait. Et que, là aussi, tous les syndicats le fassent et qu'il n'y ait pas des jusqu'au-boutistes.
La CGT annonce au dépôt d'un référé pour s'opposer aux réquisitions.
Que la CGT permette au pays de fonctionner et que dans une entreprise où un accord majoritaire est signé, elle le respecte. Je suis pour le dialogue social, je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels. Je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. Comment peuvent le comprendre nos compatriotes ? Et moi, quand on parle de tout ça, j'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues au milieu de la nuit pour trouver de l'essence.
Et là, en général, ils disent « on aurait dû anticiper ».
Mais non, mais pardon, c'est faux et c'est trop facile de dire ça. C'est toujours renvoyer la balle, c'est toujours mettre le singe sur l'épaule du gouvernement ou du président.
Vous leur avez fait passer le message, en tout cas.
Non, mais pardon,
comment il sera reçu ?
Mais on ne peut pas se substituer à tout le monde, c'est pas vrai.
Non.
Et ça ne se passera pas comme ça. Par contre, on prend nos responsabilités. Donc je le dis très clairement, si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons. Mais je pense que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. On ne va pas réquisitionner de manière préemptive. Sinon, à ce moment-là, je peux vous dire, ceux qui font des recours gagneront. Parce que les juges diront de manière tout à fait légitime pourquoi le gouvernement a réquisitionné alors que les négociations...
Éclairage de 5 secondes sur le regard politique sur cette polémique. Aujourd'hui, la droite à l'Assemblée accuse le gouvernement d'avoir agi trop tard, d'avoir réquisitionné, d'avoir annoncé les réquisitions trop tard. À gauche, on dit exactement l'inverse, à savoir que la réquisition, c'est une arme antidémocratique qui empêche le dialogue social et l'expression, notamment des salariés et des syndicats. Le président Macron, lui, il explique autre chose. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en disant notamment que s'il avait pris la décision des réquisitions plus tôt, il aurait empêché le dialogue social. Il appelle à la responsabilité les entreprises, sous-entendu faites un effort, vous qui avez fait d'énormes bénéfices, ça on l'a entendu je crois, et puis les syndicats, les salariés bien sûr, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez, pardon, je reprends l'émission.
Les négociations n'ont pas commencé, c'est un outil de travail, il est dans la main de salariés d'entreprises, vous avez il n'est pas dans la main de la réquisition.
Vous avez évoqué le nucléaire rapidement, le mouvement s'étend aujourd'hui d'ailleurs dans le secteur du nucléaire et pourrait affecter le redémarrage de certains réacteurs, vous l'avez dit, 56 réacteurs sur 26 sont à l'arrêt sur les 56, est-ce qu'on sera dans les temps par rapport au calendrier qui avait été annoncé par EDF, parce que là on repense au message de sobriété et aux craintes des Français de voir survenir certaines coupures d'électricité, pour qu'on tienne, pour que ça passe, il faut que notre parc nucléaire soit en fonctionnement. Est-ce que ce calendrier peut être tenu alors même qu'on a déjà le sentiment qu'il y a du retard?
Alors d'abord, nous devons l'être parce que moi je crois à l'esprit de responsabilité. Vous savez, je pense qu'il faut que tous nos compatriotes prennent deux pas de recul. Regarde ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a la guerre sur notre continent. Regarde les voisins. J'avais demandé une carte, si on peut l'avoir aussi, qui n'est pas de moi. Non mais, enfin une carte, pardon, un graphique avec des prix de l'électricité. Je pense
ça. Bon, il y a un truc un peu nouveau, je n'ai jamais vu ça. J'en ai vu des débats politiques, mais le président Macron qui appelle des cartes, qui est à la place du journaliste, qui appelle des graphiques, des... Voilà, je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est nouveau. C'est... Ok.
C'est important quand on parle de tout ça, parce qu'on a fait collectivement des choix. Ouais. Je veux dire, depuis le début de la guerre et de la crise...
On a fait le choix d'accompagner avec un bouclier tarifaire.
Mais nous nous protégeons, on a mis en place un bouclier tarifaire. Donc nous, Françaises et Français, nous ne vivons pas dans la même situation. Regardez,
alors voilà.
C'est une infographie de vos confrères du Parisien, je crois.
C'est une infographie que vous avez souhaité...
Exactement, c'est moi qui ai demandé. Ce n'est pas des documents de l'Élysée.
Non, ça vient du Parisien.
Ça vient du Parisien. Mais enfin, regardez ça. Les prix de l'électricité en Europe. Regardez tous nos voisins. Les prix qui sont payés. Et regardez les prix que nous payons et que nous paierons en début d'année prochaine. Ça, c'est quoi? C'est le fait que nous avons décidé le choix de protéger nos compatriotes, les familles, les classes moyennes, les familles les plus modestes, toutes les Françaises et les Français, nos entreprises les plus fragiles. Ça veut dire que c'est la nation qui le paye. Donc, on protège. Et nous investissons. Ce que je veux dire par là, c'est que personne, au moment où il y a la guerre, au moment où ça s'envole partout, au moment où on a fait le choix de protéger, au moment... où on a aussi redistribué du pouvoir d'achat par des augmentations, une augmentation du SMIC, une augmentation des retraites, et où il y a des négociations qui se passent dans les entreprises, nul n'a le droit dans notre pays de ne pas être solidaire, uni et responsable. Et donc ça, je le dis de manière très claire.
On n'a pas quel à que se plaindre.
Soit, non mais, quel que soit, c'est pas ce que je dis. On peut tous se plaindre. Beaucoup de nos compatriotes vivent, travaillent dans des conditions très difficiles. Non. Mais ce que je dis, c'est que nous devons nous serrer les coudes. Et je sais qu'il y a aussi des échéances syndicales chez certains, parfois même des échéances politiques. Et je sais qu'il y en a qui voudraient lier les combats et les luttes. Et je le dis, au moment où nous sommes, nous devons être unis et solidaires. Donc je ne peux pas imaginer une seule seconde que la capacité à nous chauffer, à nous éclairer, à aller à la pompe, elle sera fragilisée par des Françaises et des Français qui diront non. Pour défendre mes intérêts, je vais compromettre ceux de la nation.
Juste pour actualiser ce petit graphique, c'était avant le plan de 200 milliards des Allemands,
mais
pour
soutenir... Qui va venir corriger...
Et qui est contesté en Europe.
Mais qui va venir...
Non.
Bon. En fait, qui dit quoi? Qui dit que maintenant, nous devons, en Europe, agir là aussi de manière unie et avoir, c'est ce que la France porte, un projet de financement solidaire de toutes ces politiques.
Y compris en passant par une taxation des super-profits, qui est une décision que l'Europe, certaine manière, a imposée.
Et c'est ce que l'Europe a repris à la France, parce que c'est ce que cette contribution sur les surprofits que faisaient les acteurs de ces secteurs, c'est ce que nous avons fait dès le début avec les acteurs, je ne veux pas être trop technique, mais en demandant par exemple à l'EDF de contribuer davantage et en garantissant de l'électricité par l'AREN, ou en le faisant sur d'autres acteurs.
On vous avait entendu dire que vous n'étiez pas favorable à la taxation des super-profits, on a l'impression que la décision s'est imposée par l'Europe.
Non,
c'est pas ça.
D'abord, ce n'est pas une taxation, c'est une contribution des profits qui sont faits par des acteurs du secteur dont les coûts de production n'ont rien à voir avec l'envolée des prix.
C'est pas une taxe.
Non, c'est donc pas une taxe, c'est une contribution qui est prise et qu'ensuite on renvoie au pays. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait dès avant. La Première ministre et le ministre de l'économie et des finances l'ont décidé pour plusieurs acteurs. C'est ce qui fait aussi que vous avez mis à contribution certains acteurs et que vous avez aujourd'hui à la pompe une risque.
Juste un petit éclairage pour bien comprendre la question de Caroline Roux. On a un ministre de l'économie et des finances qui s'appelle Bruno Le Maire en France, qui a la question est-ce qu'il existe des super profits en France ? Elle a dit non, il n'existe pas de super profits. Donc, le président Macron répond autre chose, mais voilà, c'est pour comprendre le sens de la question de Caroline.
Ça tourne parce qu'on a fait contribuer, par exemple, un acteur comme Total pour baisser les prix. Pour revenir sur le nucléaire, je le dis pour que tout le monde fasse le lien avec tout ça. Nous, Françaises et Français, on a une chance dans ce contexte.
On avait ?
Non, on a une chance. Nous avons une force, c'est qu'on produit notre électricité à près de 90% grâce à des sources de production qui sont sur notre sol. Le nucléaire, l'hydroélectricité et nos éoliennes en mer, etc. Et donc, nous, ce que nous devons faire là, à très court terme, c'est nous mobiliser et EDF, dont vraiment je remercie l'ensemble des salariés est à pied d'œuvre pour finir le travail. Nous sommes aujourd'hui à 30 réacteurs sur 56 qui fonctionnent. Nous allons passer dans les prochaines semaines à environ 40. L'objectif est de passer à 45 en janvier. Bon. Cet objectif, tout indique que nous le tiendrons.
On n'est pas un petit peu en retard.
Et c'est notre responsabilité. Je ne suis pas non plus là salarié de l'entreprise, ni le dirigeant de l'entreprise.
Mais les enjeux sont énormes.
Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons, depuis plusieurs années, décidé de réinvestir dans cette filière. Et donc, ce que nous devons faire dans les prochaines années, face à ce monde en crise, et si nous voulons tenir notre agenda, à la fois de souveraineté et notre agenda climatique, parce que je voudrais qu'on puisse parler climat, et tout ça se tient, on doit réussir à tenir nos trois axes que j'ai définis en début d'année à Belfort, baisser la consommation, c'est-à-dire la sobriété, l'efficacité énergétique, sauver l'énergie qu'on peut sauver, en rénovant nos bâtiments, en changeant nos comportements, pour consommer moins, tout en continuant à produire et être une nation forte. Deuxième chose, produire davantage de nucléaire, parce qu'on a besoin de cette électricité décarbonée qui n'est pas intermittente. Et troisième chose, développer davantage de renouvelables, parce qu'il ne faut pas dépendre que du nucléaire. Et donc il faut
j'ai une carte à vous montrer, moi aussi. C'est une carte, au fond, des installations, des centrales à charbon en Europe. Vous la connaissez naturellement, cette carte. Est-ce que cette crise énergétique ne nous fait pas oublier l'urgence de la crise climatique et de la transition écologique.
Et c'est un des immenses problèmes de cette crise.
Parce qu'on subventionne des énergies carbonées
d'abord,
pour répondre
crise,
à une urgence sociale.
Elle montre la force du modèle français. Cette crise, elle a fait que nous-mêmes, d'ailleurs, qui avions prévu, comme vous le voyez, il nous reste deux centrales à charbon. Saint-Avold et Cordemais. Cordemais, que vous voyez à l'ouest, nous avions prévu de la garder ouverte. Elle fermera quand Flamanville sera en fonction. Parce qu'on ne veut pas que la Bretagne soit dans le noir. Et donc, il y a à la fois le développement de la centrale de Landivisiau et quand le père de Flamanville ouvrira, nous la fermerons.
Et Saint-Avold ?
Et Saint-Avold, elle était fermée et nous la rouvrons en raison de la crise.
Quand ?
Là, nous avons pris les textes pour pouvoir la rouvrir. Et donc, ça, c'est notre force parce que nous n'en dépendons pas. Ce qui se passe aujourd'hui fait que la Pologne, qui dépend beaucoup du charbon, va retarder sa transition. Et surtout que l'Allemagne va rouvrir des centrales. Et donc, qu'est-ce que ça vous montre ? Ça vous montre que si nous voulons, dans notre Europe, réussir à gagner la bataille du climat, on doit faire que dans cette carte, d'ici à 2050, il n'y en ait quasiment plus. Et si nous voulons en même temps gagner la bataille de l'indépendance, que j'évoquais, ne pas dépendre des autres, nous devons faire de l'Europe un grand continent électrique qui améliore ses connexions entre les pays, mais où il y a beaucoup plus de nucléaire, de renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique.
Une question très précise, très rapide, très concrète à vous poser. Total, on en parlait tout à l'heure, en Ouganda, pour voir dans quelle logique vous êtes, s'apprête à débuter un forage pour alimenter en pétrole brut le plus long pipeline chauffé du monde. Expropriation des populations, pression dénoncée par le Parlement européen très récemment. L'Agence internationale de l'énergie affirmait, c'est en 2021, qu'il ne fallait plus lancer de nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile. Vous le soutenez, ce projet ?
Non, la France ne le soutient pas, elle ne le finance pas non plus, elle n'a pas donné de garantie. Comme d'ailleurs, je le tiens à le dire ici, pour défendre le climat et la biodiversité, nous avions décidé de ne pas donner de garantie et de financement sur les projets dits Yamal, qui mettaient en cause, là plutôt tout au nord, les choses. Donc, c'est une entreprise privée, Total. Nous ne sommes pas actionnaires, mais il n'y a pas de financement français sur ce projet. Et je pense aujourd'hui que ce qu'il nous faut réussir à faire, simplement, je vais ici, parce que vos deux cartes sont intéressantes. Et je veux remettre ça en perspective par rapport au climat. Non, non, parce qu'il faut que tout se tient.
Tout se tient, mais il va falloir qu'on parle de l'Arménie et de l'Iran.
Vous avez raison. Ce projet, donc, on ne le soutient pas. C'est une entreprise privée et il est important d'y revenir. Mais...
Alors, c'était toujours un... Parfois, ça peut énerver. La journaliste essaie de donner un certain rythme à l'interview. On a l'impression que, voilà, elle veut passer d'un sujet à l'autre. Pourquoi ? L'émission a une durée prévue, cadrée. On n'est pas sur Twitch, hélas. Et l'émission ne peut pas durer à l'infini. Voilà. Elle doit durer un certain temps. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été jugés importants par la rédaction de France 2, par France Télévisions et par Caroline Roux. Donc, il s'agit de les traiter. C'est pour ça que parfois... Alors on ne peut pas prendre le temps d'aller plus loin, d'où les questions qui s'enchaînent, mais je trouve qu'elle fait un excellent travail.
Mais la priorité des priorités pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est de sortir du charbon. C'est le cœur de l'effort. Et donc, dans la hiérarchie des facteurs, le plus important, parce qu'il y a parfois eu cette confusion, c'est pas de lutter contre des projets de gaz en Afrique, parfois dont certains pays africains ont besoin pour leur développement. Et ils ont besoin ils ont besoin aussi de créer leur propre électricité. Et ils n'ont pas tout de suite du nucléaire. Non, je le dis parce que parfois, certains pays africains qui nous écoutent ne comprennent pas. Ils disent, vous rouvrez des centrales à charbon et vous nous empêchez de faire du gaz. La priorité, c'est de sortir du charbon. Nous, Européens, à cause de nos dépendances, pas la France, l'Europe, on va devoir rouvrir du charbon. C'est absurde. Et donc, la réponse, c'est unité de l'Europe, clarté de l'Europe qui doit aller vers plus de renouvelables, plus de nucléaire, plus d'interconnexion. Et moi, mon rôle, ça va être de convaincre tous les Européens d'aller sur ce chemin. Alors, et en particulier, ça va être un dialogue franco-allemand très important, parce que nous n'avons pas le modèle sur ce sujet. Et donc, simplement, c'est le seul modèle d'avenir, c'est le seul qui nous permettra de tenir notre engagement climatique et de tenir l'indépendance du continent
européen. Monsieur le Président, Sylvain Tesson, écrivain et voyageur, revient d'Arménie, vous a écrit « L'Arménie n'est pas un territoire comme les autres ». Sa foi, son histoire, sa mémoire, sa culture, son chagrin, sa terre, ses morts en font le poste avancé de l'Europe. Monsieur le Président, les Arméniens vous appellent. La France saura-t-elle prendre le risque d'entraîner ses alliés et de se lever pour l'Arménie? C'est une lettre qui va être publiée dans le Figaro Magazine ce week-end. Qu'est-ce que vous lui répondez?
D'abord, Sylvain Tesson a raison de le dire. Et l'Arménie est un pays avec lequel nous avons un lien unique. Parce que l'Arménie s'est toujours battue pour une forme d'universel dans cette région, de tolérance, d'esprit de paix.
Et on les laisse tomber?
Non, c'est pas vrai du tout. Je vais revenir, j'y ai passé la nuit il y a quelques jours, donc je peux vous dire qu'on les laisse pas tomber. L'Arménie, c'est un peuple aux côtés duquel nous étions. Notre marine a aidé ce peuple il y a maintenant un peu plus d'un siècle, quand le génocide était là-bas. Et nous avons reconnu, nous sommes battus contre les négationnistes ou les révisionnistes du génocide qu'a subi l'Arménie. Et beaucoup de familles sont venues en France. Et beaucoup de nos compatriotes ont des origines arméniennes et nous écoutent. Et donc aujourd'hui, l'Arménie, à quelle situation? Il y a 2 ans, elle a d'abord subi une guerre dans le Haut-Karabakh que vous voyez, qui était un territoire. Alors, ça n'était pas reconnu sur le plan international. Hein. Il y avait là-dessus une controverse. Mais l'Arménie est donc été dans le Haut-Karabakh, qui était ce territoire au cœur de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a lancé une guerre terrible, avec beaucoup de morts, des scènes atroces, et elle a repris ce territoire. Au mois de septembre, l'Azerbaïdjan a lancé le long de la frontière plusieurs offensives. En particulier, de manière évidente, on le voit dans cette carte, pour pouvoir vraisemblablement faire un corridor d'un bout l'autre de son territoire.
Que peut-on faire?
Nous l'avons clairement condamné. J'ai eu tout de suite le président Aliyev d'Azerbaïdjan, le premier ministre Pachinian d'Arménie. Le premier ministre Pachinian est venu à Paris quelques jours plus tard. Et la France fait partie des puissances de médiation. Et donc, d'abord, j'ai souhaité que ces deux pays puissent être invités à Prague, lors de la communauté politique européenne. Ce qui a permis, par parenthèse, pour la première fois dans l'histoire récente, un premier ministre arménien de rencontrer un président turc. Je le dis pour montrer l'importance de cette réunion de Prague. Et surtout, pendant plusieurs heures, avec le président du Conseil européen, nous avons réuni les deux protagonistes, c'est-à-dire le premier ministre arménien et le président d'Azerbaïdjan. Et nous avons décidé d'abord que les deux parties s'engageaient à reconnaître les frontières de 1991, cette ligne blanche qu'on voit, qu'ils acceptaient le principe d'une mission de l'Union européenne qui part ces jours-ci et qui va donc aller sur le terrain constater les infractions. D'accord. Pour permettre ensuite à la communauté internationale de se prononcer et de restaurer l'ordre et le respect des frontières. Mais vous voyez, tout est lié. Sur cette frontière, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis 2 ans? Vous avez 5 000 soldats russes qui sont là et qui sont prétendument des gardes-frontières. Et lors de ce conflit, il y a eu un conflit sous-jacent. C'est que la Russie a utilisé ce conflit qui datait depuis plusieurs décennies. Et elle s'est immiscée dans ce conflit. Elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque. Et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie, qui pourtant, naguère, était un pays dont elle était proche. Et vous le voyez, ce qui se passe là, c'est une manœuvre de déstabilisation de la Russie qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser. Donc, pour le dire simplement, la France est là, présente, puissance de médiation. Votre serviteur, au nom et du pays, a mené cette négociation pendant la nuit de jeudi à vendredi dernier. Une mission se déploiera et nous ne lâcherons pas les Arméniennes et les Arméniens.
Il n'y a pas une forme de tolérance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan parce qu'on a scellé un accord sur le gaz.
La France n'achète pas de gaz là-bas et il n'y a pas d'accord. Et je vais vous dire...
L'Europe, oui.
Plusieurs pays européens ont des accords gaziers, bien sûr.
D'accord.
Mais je vais vous dire, en ce qui concerne la France et en ce qui concerne la voie de l'Europe, mais moi je vous le dis des yeux dans les yeux, je le dis pour tous nos compatriotes, nos valeurs, nos principes ne s'achètent pas ni à coup de gaz ni à coup de pétrole.
Un mot sur l'Iran, naturellement. Les manifestations se poursuivent en Iran pour la quatrième semaine. Des hommes qui se battent pour leur liberté. Là aussi, quelqu'un a voulu vous interpeller ce soir. Elle s'appelle Shador Javan, elle est romancière, elle est essayiste. Elle a fui l'Iran en 93 et elle a un message pour vous.
Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous en tant que citoyenne et écrivaine française, fille de l'Iran. Torturer les adolescentes de 16 ans parce qu'elles ont brûlé leur voile dans la rue. Torturer les adolescentes jusqu'à la mort. Les abattre dans la rue, ce n'est pas un crime de guerre. C'est pire. Les femmes ont vécu plus de 40 ans dans la peur de sortir de chez elles, de peur d'être arrêtées sans raison. Et croyez-moi, il arrive un moment où l'on n'a plus peur, parce qu'on a eu peur toute sa vie. Le peuple iranien crie aujourd'hui, nous sommes prêts à nous battre, à mourir, pour reprendre l'Iran. Le peuple iranien ne veut plus de ce régime. Alors, Monsieur le Président, est-ce que l'Occident va aider concrètement le peuple iranien contre ce régime criminel et sanguinaire?
La question est simple.
Si je puis me permettre, je trouve que c'est le moment le plus fort de cette émission. Cette interpellation, cette question de cette romancière française d'origine iranienne, avec les mots très forts que vous avez entendus, ça pose la question de l'impuissance, notamment des pays occidentaux par rapport à ce qui se passe en Iran actuellement. C'est une question que j'évoque beaucoup avec vous le matin. Et dans l'hebdo Étienne le vendredi soir, j'ai hâte d'entendre la réponse du président de la République sur l'Iran. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Elle vous est posée, monsieur le président.
Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes, parce que c'est les femmes qui ont commencé avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Mais aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de jeunes et des hommes qui se battent pour les droits des femmes et pour ce que ce combat a d'universel. Et donc, de manière très claire, la France condamne les répressions aujourd'hui menées par le régime iranien. Et nous tenons aux côtés de ces femmes. C'est un peuple souverain qui se bat pour sa liberté.
Et vous avez serré la main d'Ebrahim Raisi à New York.
Je lui ai parlé et je lui ai dit la même chose.
Cette poignée de main, elle a choqué en Iran. Certains se sont dit, c'est un soutien au régime.
Absolument pas. Et la France est là depuis des années pour montrer que nous nous battons pour d'abord défendre nos principes, défendre ces femmes et ces hommes, défendre aussi, je le rappelle, des Françaises et des Français et des binationaux qui sont aujourd'hui otages.
Vous avez raison, je vois beaucoup de commentaires. Non mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Pour l'instant il y a une condamnation morale, la France condamne la répression, il n'y a pas de réponse. On va voir s'il y a une réponse plus concrète à la question qui a été posée.
En Iran. Et aussi protéger la région, parce que l'Iran a mené beaucoup d'actions de déstabilisation et lutté contre la prolifération nucléaire. Donc nous sommes engagés. Mais là, de la même manière, et ça ne me fait pas plaisir, vous voyez sur la photo, quand je vois le président iranien. Mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie? C'est accepter de parler avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas vos principes, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord.
Mais ça voudrait dire que c'est ça voudrait dire que c'est la réelle politique qui gagne toujours à la fin?
Non, ça veut dire qu'on ne fait pas le destin des peuples à leur place. et qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer. Mais il faut reconnaître que quelque chose se passe depuis quelques semaines, et je veux le dire ici avec beaucoup de force, qui d'abord nous bouleverse tous, parce qu'il porte quelque chose de l'universalité du combat qui fait la France. Et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes mènent avec beaucoup de courage ce combat. Mais ils portent l'universalisme de nos valeurs. Et là où beaucoup, ces dernières années, ont voulu nous faire croire que le droit des femmes était une valeur régionale qui valait pour l'Europe, ils disent juste « nous le voulons pour nous ». Et que toutes celles et ceux qui, sur notre sol, ont dit le contraire, se souviennent de ce que c'est que vivre sous ces régimes. Donc voilà, nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qui nous ont faites et qui continuent de nous faire.
Monsieur le Président, cette émission, on a choisi de l'intituler « Le monde en crise ».
Alors, je pose de quelques secondes, je ne dis pas que la réponse était facile, hein. Je ne dis pas que je ferais mieux que le président de la République à sa place, mais la question était très précise de Caroline Roux, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les Iraniens, les Iraniennes qui se battent pour leur liberté aujourd'hui? La réponse, pardon, je la mets dans mes mots, c'est rien. Quand on dit on ne fait pas le destin des peuples à leur place, c'est ce qu'on peut appeler de la realpolitik. Le président Macron qui dit à un moment la diplomatie c'est parler à des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, donc on parle des dirigeants du régime. Bon, encore une fois, je ne dis pas que j'aurais fait mieux et que la question est simple, mais manifestement, ici, c'est un constat d'impuissance qui est fait. C'est un constat d'impuissance. Je ne suis pas sûr que d'autres pays, d'ailleurs, répondent mieux que nous, mais c'est un constat d'impuissance. C'est-à-dire que la réponse est, en gros, on ne peut rien faire, quoi.
Crise, je résume. Crise ukrainienne, on aurait pu d'ailleurs évoquer la crise en mer de Chine avec Taïwan, ce qui se passe aussi en Corée du Nord. Crise énergétique, crise climatique, crise économique, avec des perspectives de récession. Quand on est à la place qui est la vôtre, à part gérer les crises, quelles sont les marges de manœuvre qui restent?
Mais d'abord, nous avons un cap, nous le tenons. Les crises sont là, il faut les affronter, elles sont parfois des accélérateurs.
Crise qui heurte les Français.
Mais bien sûr, et qui les touche, et notre pays. Vous savez, pour beaucoup de nos compatriotes, ils ont le sentiment que les crises, ils les vivent depuis des décennies. Mmh. La désindustrialisation, les inégalités de ce monde qui s'est recomposé sur le plan économique d'abord, la crise du Covid qui nous a frappés, la crise climatique et son urgence.
Mais quand ils regardent tout ça, c'est très anxiogène.
Je vais vous dire, oui, mais il y a deux manières de faire face à toutes ces crises, à cette anxiété. Essayer de dire c'est un chaos, nous ne voulons pas en voir les choses et se replier sur soi, aller vers les extrêmes qui proposent des solutions de repli ou avoir peur. Et à essayer de bâtir un cap et de le tenir. C'est celui que j'essaie de tenir depuis 5 ans. Et en s'appuyant sur nos forces, je vais vous le dire de manière très claire. La France est un grand pays. Par ses valeurs, par son histoire, par aussi sa force productive, par ses femmes et ses hommes, sa recherche. Et donc, quel est le cap qui est le nôtre? Notre indépendance en matière de recherche, de technologie, d'industrie, d'énergie, nous en avons parlé. Et vers quoi nous devons aller, envers et contre les crises? Être plus fort. On a réindustrialisé le pays. Nous résistons mieux que les voisins face à la crise. Regardez les chiffres. La récession sera là chez beaucoup de nos voisins. Nous allons tenir l'année prochaine. Et donc, nous devons continuer de faire les réformes, d'investir.
Il n'y aura pas de récession en France.
Et d'être unis. Attendez, je ne suis pas un devin. Ce que je regarde, c'est que je regarde les instituts qui disent on résiste mieux. Pourquoi? Parce qu'on a investi et fait des réformes, mais parce qu'on a aussi des forces qui sont les nôtres. Notre nucléaire, entre autres, en fait partie, et l'investissement qu'on a décidé sur le renouvelable. Et donc, quel est le cap que je tiens en votre nom à toutes et tous? Celui de l'indépendance française et européenne.
Très vite.
Et celui de bâtir un pays plus fort et plus indépendant pour être plus juste. Et c'est pourquoi on va continuer, envers et contre tout, les réformes, l'investissement dans notre recherche, dans notre éducation, dans notre industrie, pour soutenir face à la crise de l'énergie, pour aussi la réforme pour plus de travail, parce que si on ne travaille pas plus, on ne peut pas être plus indépendant.
Donc, qu'est-ce que vous dites
et à tout ces ça,
Français
pour quoi faire?
Qui sont heurtés.
Pour financer notre modèle social.
Juste un dernier message aux Français qui sont heurtés par toutes ces crises. Vous leur dites quoi? Courage, vous leur dites on va y arriver, vous leur dites quoi? Soyez patients.
Non, je leur dis ne lâchons rien.
Ok.
Nous allons y arriver tous ensemble. C'est dur, je le sais, c'est souvent une source d'anxiété, mais nous avons des forces, nous avons un modèle social qui est là. Mais pour que ce modèle social tienne et que nous soyons indépendants, nous avons besoin aussi d'être une grande force productive et industrielle.
Et ça, nous en parlerons.
Et ça, on nous en parlerons, mais c'est pour ça que tout se tient.
Parce
et donc, nous avons besoin.
Pouvoir d'achat, Ce sera fera l'objet d'une autre émission.
C'est vrai, mais tout se tient. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un cap. Et donc, nous résistons face aux crises. Mais ce cap, c'est quoi? C'est d'être cette grande nation indépendante, dans une Europe plus forte, qui réussira à bâtir la neutralité carbone en créant plus d'emplois et en finançant la justice sociale.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous le disais, nous en reparlerons de tous ces sujets que vous venez d'évoquer en cette fin d'interview et qui heurtent le quotidien des Français, la sobriété et bien sûr les dossiers des retraites. Ce sera le 26...
Il les heurte, pardon, je vous coupe avant votre conclusion.
Ah ben non, parce que là, il faut vraiment y aller.
Mais je veux dire, il heurte nos vies. Il bouscule et en particulier les plus fragiles. Oui. Mais nous avons une part de notre avenir dans nos mains. Et donc, si nous tous nous restons unis, que nous regardons, que nous comprenons ce monde et que nous voyons l'importance d'être forts, unis et solidaires, nous y arriverons.
Rendez-vous le 26 octobre avec vous, Monsieur le Président, pour évoquer les urgences françaises cette fois-ci. Il est l'heure de retrouver Carole Gessler et ses invités pour l'événement La Suite.
Merci les amis de votre attention et puis de votre participation. J'ai été un peu comblé par la qualité de ce que je disais dans le chat. J'avais une oreille vers l'interview du président de la République par Caroline Roux. Et puis mes deux yeux sur le chat. Et je me suis régalé. Voilà. Est-ce que Twitch est un outil, un média qui permet de parler d'informations d'actualité autrement? Moi, c'est ma conviction, vous le savez. C'est pour ça que je suis depuis 2 ans sur cette plateforme, cet outil. Et là, de permettre à, je ne sais absolument pas combien vous êtes ce soir, hop, regardez, plus de 8000 personnes, viewers, de partager un moment et d'échanger ensemble avec parfois des informations, des précisions extrêmement pertinentes pour compléter, commenter les propos tenus, soit par la journaliste, soit par le président, franchement, c'est un régal. Le matin, je parle d'infos augmentées, c'est-à-dire que moi, j'émets des informations qui viennent de médias que je juge de qualité, la presse écrite, les journaux du matin, les journaux du soir, le Monde, par exemple, Libération, Le Parisien, La Croix, Les Échos, Le Figaro, L'Opinion, L'Humanité, etc. Donc, une information que j'estime de qualité. Et malgré tout, parce que dans le chat, eh bien, il y a des gens qui connaissent très très bien certains sujets, vous précisez, vous amendez, vous complétez, on vérifie ensemble, on prend le temps, on est sur Twitch, et on arrive à une info au final, de meilleure qualité que celle que j'essaye d'émettre le matin, c'est l'info augmentée. C'est ce qui s'est passé ici. C'est pas terminé. Moi, je vais vous proposer un petit débrief, très modestement, puisque j'ai pris énormément de notes pendant cet échange, cette interview donc, du président Macron, qui était en direct sur France 2, dans cette nouvelle émission politique sur le service public qui s'appelle L'Événement. Donc, c'est pas... ça, c'est important parce que je l'ai vu dans le chat. C'est pas une émission qui a été pensée pour... le chef de l'État. C'est une nouvelle émission politique sur France 2 qui remplace celle qui existait précédemment, notamment celle pendant la présidentielle, et qui va recevoir d'autres invités. Le premier invité, c'était le chef de l'État qui va revenir d'ailleurs dans 15 jours. Aujourd'hui, c'était surtout pour parler des questions internationales, de l'Ukraine, de l'Iran, vous l'avez entendu, notamment de l'Arménie aussi, de la crise du gaz. Dans 15 jours, précisons le 26 octobre, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il y aura une deuxième émission, cette fois pour parler des questions intérieures. Voilà. Donc, ça c'est pour le cadre. Donc, je voulais vous dire merci d'abord à vous. Et puis, un petit débrief. Voilà. Et puis après, je vous proposerai de rejoindre, si vous le souhaitez, la chaîne en continu France Info, qui est la chaîne où je travaille tous les matins, où je présente la matinale, où je serai demain dès 6h30, qui consacre une édition spéciale ce soir de débrief, de débat avec des journalistes politiques, avec des invités politiques, notamment avec l'ami Jean Massier, s'il vous plaît, oui, qui sera physiquement à France Info, la télé, ce soir. Donc vous pourrez retrouver Jean sur France Info. Puisque je suis au merci pour les commentaires, donc, et puis pour tous les subs, tous les soutiens, les bits, et vous n'avez, je pense que ça ne vous a pas échappé, Annie a été particulièrement généreuse pour soutenir notre projet éditorial ici. Vous l'avez remercié à de nombreuses reprises. Merci à vous aussi. Je crois que tout le monde est plus ou moins abonné maintenant ce soir. Annie, du fond du cœur, merci, même si je sais que ça te gêne parce que tu es très, très discrète. Revenons en quelques minutes rapidement. Faisons un petit résumé de ce qui s'est dit ce soir. D'abord, la guerre en Ukraine. Avant de commencer ce stream, je vous dis, normalement, l'interview va débuter par cette question. Je ne me suis pas trompé. C'était pas, en même temps, ce n'était pas un pari très risqué. La première question de Caroline Roux, dont je saluerai un peu plus tard la qualité d'interview. Moi, vraiment, j'ai été Voilà, j'étais bluffé. J'ai trouvé que c'était une excellente interview. C'est mon regard de journaliste, c'est subjectif, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est une très, très bonne interview sur le fond, sur la forme de Caroline Roux. Voilà. La Russie, est-ce que la Russie est un État terroriste? C'était la première question de Caroline Roux. Le président Macron n'a pas répondu en ce sens, mais il a quand même dit très clairement que cette guerre avait été menée, déclenchée de manière unilatérale contre un pays voisin, donc il y avait, je le prends dans mes mots, mais bien un assaillant et un pays qui avait été agressé et qu'il avait, le président Poutine, mis en danger la sécurité de l'Europe. Il a notamment souligné cette phase inédite de bombardement depuis le début de la semaine par les forces russes contre des installations, des infrastructures et aussi des infrastructures civiles. La question des livraisons d'armes. Alors ça, c'est la question que je me posais avant le stream. J'en ai parlé pendant la première petite demi-heure, juste avant le début de l'émission. C'était, ce matin, je lis ça dans les journaux, est-ce que ce soir, le président de la République va faire des annonces quant aux livraisons d'armes de la France aux forces ukrainiennes, sachant que justement, certains ont souligné ces derniers mois que la France ne comptait pas parmi les pays qui avaient le plus soutenu par ces livraisons d'armes l'Ukraine. On est largement devancé par des pays comme les États-Unis, bien sûr, mais aussi la Grande-Bretagne. Alors, il n'y a pas eu de grosses annonces ce soir. Voilà. La question était de savoir si la France allait être le premier pays occidental à fournir des chars modernes de conception occidentale et pas des chars de conception plus ancienne soviétique comme l'a fait la Pologne par exemple, donc les chars Leclerc pour parler de ces armes là. La réponse ce soir en tout cas est non. Le président Macron a annoncé la livraison additionnelle de 6 canons César en partenariat avec le Danemark. Pourquoi ? Parce que c'était des canons qu'on avait prévus pour le Danemark, donc la France a eu manifestement le feu vert pour du Danemark pour livrer ces 6 canons César additionnels, en plus de ceux déjà livrés, ces canons qui sont extrêmement efficaces et très mobiles. Et ça, vous me l'avez rappelé dans le chat tout à l'heure, j'ai parlé de la puissance et de la précision de ces canons César qui sont très modernes. Certains m'ont rappelé qu'il était aussi très mobile. D'ailleurs, France 2 a rappelé dans son sujet à un moment qu'aucun de ces canons n'avait été saisi par les forces russes. Radar, système de missiles antiaériens pour protéger des attaques, ça a déjà été fait dans le passé, donc ça va continuer. On livre, nous formons, donc pas de grande annonce ce soir sur cette question. Question très précise de Caroline Roux qui a été très précise dans ses questions. C'est pas de la. Allez, disons les termes, on est sur Twitch, on n'est pas à la télé. C'est pas de la lèche. Hein, c'est pas parce que Caroline Roux travaille pour le service public, pour le groupe pour lequel je travaille, que je dis ça. Je le dis du fond du cœur. Je le penserai pas, je le dirai pas, ou je m'abstiendrai. Je trouve que c'était une excellente interview. Des questions extrêmement claires, extrêmement cash. Est-ce qu'il y a des soldats français? Est-ce qu'il y a des membres des forces spéciales françaises sur le territoire ukrainien? Question extrêmement claire. Réponse claire du président. La réponse est non. La réponse est non. Il n'y a pas de membres des forces spéciales françaises sur le sol ukrainien, a dit le président Macron. Le risque d'une attaque nucléaire, vous m'avez corrigé dans le chat, vous m'avez apporté des précisions et je vous en remercie. Est-ce qu'une phrase, une frappe tactique, alors là il faut distinguer bombe nucléaire tactique, bombe nucléaire stratégique. Le problème c'est que la définition de la bombe nucléaire stratégique a évolué. On rentre dans des débats un peu pointus, mais Hiroshima, Nagasaki, c'était considéré à l'époque comme des frappes tactiques, c'est-à-dire stratégiques, pardon, c'est-à-dire très 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 importantes. Avec l'augmentation de la puissance des bombes atomiques, on dit aujourd'hui que les bombes qui ont frappé le Japon donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale ne seraient plus considérées aujourd'hui comme stratégiques, mais tactiques, puisque maintenant il y a des bombes beaucoup plus puissantes. La question de Caroline Roux était: est-ce qu'une frappe tactique de la Russie, c'est-à-dire pas stratégique, pas gigantesque, pas le feu nucléaire, l'apocalypse nucléaire, mais tactique pour frapper un endroit précis sur des infrastructures de façon extrêmement radicale, bien sûr, ou une ville, serait considérée comme une attaque nucléaire qui impliquerait une réponse stratégique de la France? La réponse du président Macron a été claire, c'est non. À partir du moment où le sol français n'est pas frappé, cela n'engage pas une réponse stratégique nucléaire de la France. C'est ce que j'ai compris. Je pense que vous avez entendu la même chose que moi. Je fais une petite pause sur le débrief et je vous lis un petit peu, parce que sur la question nucléaire, je sais que c'est parfois un débat de spécialistes. Ok, ça vous va. Parlez-vous encore à Vladimir Poutine? Alors moi, j'ai trouvé cette, la réponse très, très intéressante. Pourquoi? Parce que le président Macron a été de ceux, au niveau occidental, un des rares, au début de la guerre, à maintenir un canal de discussion ouvert avec Vladimir Poutine. Voilà. On a vu les images des rencontres, des échanges, alors que la guerre avait éclaté. Certains lui ont reproché, et lui expliquant qu'il voulait maintenir ce canal de discussion pour, bien sûr, permettre des négociations, pourquoi pas de paix entre les deux camps, et mettre fin à ce conflit qui, à l'époque, était naissant. Ça lui a été reproché par certains, ça a été salué par d'autres. La question de Caroline Roux, c'était: est-ce que vous parlez encore à Vladimir Poutine? La réponse a été claire encore une fois, ici, sur ce point en tout cas. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, à propos de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ça veut dire que le dialogue direct entre le président français et le président russe est rompu à ce jour. Voilà. Donc ça illustre aussi clairement l'évolution du regard diplomatique français sur ce conflit, voilà, où aujourd'hui les deux présidents ne se parlent plus directement. Dans mes termes à moi, c'est le président Macron, à un moment, s'est peut-être rendu compte que le président Poutine le roulait un peu dans la farine, je m'explique, maintenait l'illusion de l'échange et du dialogue, tout en poursuivant ses buts de guerre, quoi. Donc là, on est passé à autre chose. Ça ne veut pas dire que les contacts diplomatiques à un autre niveau sont rompus, bien sûr. Voilà. Diaphane le dit en d'autres termes. Poutine se fout de sa gueule depuis le début. Bon, voilà. Et en même temps, et le président Macron l'a dit un peu plus tard, et ça, c'est la position française. C'est une petite musique un peu différente de ce qui peut être entendu dans d'autres chancelleries, dans d'autres capitales occidentales. La France, aujourd'hui, c'est quand même le pays qui dit « Ok, on est à côté des Ukrainiens, on soutient les Ukrainiens, on arme les Ukrainiens, on arme la résistance des Ukrainiens, mais on ne fait pas la guerre, nous, la France, sur le sol ukrainien. » Ça, c'est quelque chose qui est répété à plusieurs reprises. Mais à un moment, il faudra sortir de cette guerre. Il faudra sortir de ce conflit. Il faudra trouver rentrer dans un processus de paix. Il faudra établir une paix entre ces deux pays. Et on a le sentiment que le président Macron espère que la France jouera un rôle dans ce processus de paix. Ce matin, je lisais des articles à ce propos, soulignant que personne n'a intérêt à que la Russie se sente menacée par ce qui pourrait advenir dans ce processus de paix, et qu'il faudra en gros créer des conditions de sérénité à la fois pour l'agressé, pour les Ukrainiens bien sûr, mais aussi pour l'agresseur. Tout simplement pour pas que ça se reproduise, quoi. Donc là, on est sur un travail de diplomatie. Le président Macron l'a évoqué dans cette interview. Alors à un moment, Caroline Roux a sorti une déclaration du président Hollande, l'ancien président, disant à propos d'Emmanuel Macron qu'il avait toujours eu pour le président Poutine un certain nombre d'indulgences. Vous avez vu à un moment cette déclaration de l'ancien président socialiste. La France va-t-elle soutenir l'Ukraine dans ses opérations pour reconquérir les territoires pris par les Russes, notamment à l'est du pays? En gros, est-ce que les armes utilisées par les Ukrainiens, livrées par la France, notamment les fameux canons César, vont pouvoir être utilisées pour non plus défendre les territoires là aujourd'hui, mais reprendre les territoires pris par les Russes dans des contre-offensives? Là, réponse claire aussi. Alors la Crimée, ils n'ont pas parlé de la Crimée à ce moment-là. Quelqu'un me dit notamment la Crimée. La Crimée, c'était il y a quelques années. Et je trouve que c'est encore une autre question. En tout cas, la réponse a été relativement claire là aussi. Ce n'est pas à la France de décider des buts de guerre des Ukrainiens, ce sont aux Ukrainiens. Le matériel livré a été livré. Les Ukrainiens font ce qu'ils veulent avec, quoi. Mais à un moment, et c'est là que le président Macron le dit, il faudra revenir à la table des négociations. Donc, grosse séquence ukrainienne. On peut faire une mini-pause là-dessus avant de parler de la question de la pénurie des carburants qui a été évoquée. Même si c'est une émission qui a été consacrée normalement aux questions internationales, je vous le disais aussi avant le stream, je ne me suis pas trompé, je ne peux pas me tromper sur tout le temps. Ça m'étonnerait beaucoup que la question de la pénurie des carburants, qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, hein, qui est la conséquence d'un conflit social dans les raffineries des groupes pétroliers en France, donc Total Energy et Esso Exxon Mobil. Je vous avais dit, je serais très surpris qu'on n'en parle pas ce soir, on en a parlé. Avant d'aller sur la pénurie de carburant, sur Cette séquence ukrainienne, vous en avez pensé quoi? Là encore, vous me complétez, vous me corrigez. Et Morgan, par exemple, Morgan Star estime que c'était sur la Crimée la question et pas sur les territoires. Fréobi renchérit, il a parlé des frontières de 1991. Pop Sam confirme, ils ont parlé de la Crimée et Macron a dit à ce moment-là que c'était aux Ukrainiens d'en décider, donc mea culpa. Et donc c'est la démonstration que quand on écoute une émission à 8000 plus 1 ou 6000 plus 1 comme en ce moment, eh ben on est plus attentif. Moi, j'ai dû avoir quelques secondes d'inattention ici. Et manifestement, effectivement, il parlait de la Crimée. Vous êtes plusieurs à me le dire. Ok. Merci. Morgan Star le confirme. Ok. Merci à vous. Je viens d'arriver. Plutôt bonne prestation du président ou pas? Demande MHRT. Vous savez quoi? On va faire un sondage. Ok. On va faire un petit sondage. Instrument intéressant de Twitch, vous le savez. Let's go. Je vais vous poser la question. Tout simplement. Hein. Alors, ça ne va pas être très fin dans l'analyse. Hein. Un sondage, c'est forcément un peu réducteur. Qu'avez-vous pensé de la prestation du président? Je ne mets pas du président Emmanuel Macron parce que je manque de place. Voilà. Vous l'avez trouvé. Je reste très général. Hein. Très bonne. Vous l'avez trouvé bonne. Vous l'avez trouvé moyenne. Mauvaise. Très mauvaise. Je vais manquer d'une ligne pour les sans opinion et je m'en excuse parce que je le propose systématiquement. Mais à partir du moment où j'ai dit très bonne et bonne, il faut que j'ai mauvaise et très mauvaise. Voilà. Donc c'est un choix. Je ne mets pas sans opinion. Pardon pour ceux qui n'ont pas d'avis. Qu'avez-vous pensé de la prestation du président? Très bonne, bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise. Vous avez 2 minutes pour voter. Ça va vous donner un petit peu un regard général sur les réponses du président de la République. Hop, le sondage est parti. Plus tard, je vous demanderai ce que vous avez pensé de l'émission aussi, et notamment de la prestation de Caroline Roux à ce propos. Voilà, on va regarder le sondage. Yannick qui me fait rire, Samuel Etienne qui soupire avant de dire qu'il va énoncer une question simple. Je suis un peu... Ah ouais, je suis peut-être un peu flou, ouais. Ah ouais, j'ai dû perdre mon point. Bougez pas, je vais vous corriger ça, allez. Sur Twitch, on règle aussi la technique en direct, bougez pas.
Mon petit tableau.
Comme ça, vous avez vu le tableau avec lequel je fais le point. Moi, je suis un peu plus net. Et si je ne suis pas plus net, ce n'est pas la caméra, c'est moi qui suis flou parce qu'il est tard et que je me lève à 1h45 du matin tout à l'heure. On regarde le sondage? Bien sûr que c'est l'original, bien sûr. Bien sûr que c'est l'original, c'est grâce à vos subs. Bien sûr. Voici le sondage. Qu'avez-vous pensé de la prestation du président? Ok. Ok. Alors, Twitter n'est pas Twitch, puisque quand j'ai annoncé ce stream, j'ai vu, l'essentiel des commentaires était plutôt négatif. Hein. Pas de politique sur Twitch, pas le président Macron, pas lui. Enfin bon, voilà, beaucoup de messages de rejet sur Twitter. Et là, je vois autre chose. Qu'avez-vous pensé de la prestation du président? Je vois 14% de très bonnes. Je vois, oui, Twitter est un monde à part, quelqu'un me dit ça dans le chat, je confirme. bonnes, 52%. Le sondage vient de se terminer. Donc 52 et 22, attendez, donc si j'additionne bonne et très bonne, on est quand même à 66% de bonnes opinions, ok. Moyenne, donc qui est pas négatif ni très négatif, c'est moyen, 22%, ok. Bah écoutez, je vais vous dire pourquoi je suis surpris. C'est pas un jugement de valeur sur le président Macron que je fais. C'est parce qu'en fait, il y a un discours qui a été très sonore sur Twitch ces derniers mois, ces dernières années, puisque je suis un de ceux qui a amené l'actualité, et notamment l'actualité politique, sur Twitch, bon voilà, dans, sur une plateforme qui était consacrée à d'autres choses. Certains estimaient que ce contenu n'avait rien à faire sur Twitch et l'ont dit. Bon, c'est un débat. Moi, je pense que cet outil peut servir à plein de belles choses. Partager sa passion, par exemple, du jeu vidéo, ou pour l'art, ou pour la musique, ou pour l'actualité comme quoi, ou pourquoi pas l'actualité politique. J'ai essayé de défendre cette idée. Bon, bah voilà, c'est pour ça que je suis un peu surpris du coup, parce qu'il n'y a pas le phénomène de rejet que je peux voir parfois. Donc vous n'êtes que 7% à avoir trouvé mauvaise la prestation du président, et très mauvaise 5%. Bon, bah du coup, je m'attendais, peut-être influencé par les commentaires sur Twitter postés sous mon annonce de ce stream ce soir, je m'attendais peut-être à un autre résultat. Ok, bah c'est extrêmement intéressant. Je suis assez souvent surpris d'ailleurs du résultat des sondages, ce qui est plutôt un bon signe d'ailleurs, c'est que vous n'êtes pas prévisible. Merci beaucoup pour le sondage, c'est vachement intéressant. Ok, d'accord. Hop, je referme le sondage. On en fera un autre plus tard peut-être sur l'émission, d'une façon générale, et sur ce que vous avez pensé de la prestation, l'interview de Caroline. Pardon, je remercie pas beaucoup les subs ce soir parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais un grand merci un instant à Estas Lavidas, à Mathian et à tous ceux qui ont soutenu la chaîne ce soir, et notamment Annie, bien sûr. Alors, la crise des carburants, la pénurie de carburant. Bon, le président Macron a rappelé d'abord, parce que pour le coup c'est juste, ça n'a rien à voir avec l'actualité internationale, notamment la guerre en Ukraine. Hein, c'est la conséquence d'un conflit social, pour ceux qui ne le savent pas, d'un conflit social en France entre des entreprises privées qui sont des grands groupes pétroliers, Total Energy et Esso ExxonMobil, et des salariés, des syndicats, les derniers reprochant au premier d'avoir fait des bénéfices, des super bénéfices, et de ne pas les partager suffisamment avec les salariés, d'où ces grèves actuellement, qui ont privé les stations-service de carburant. Je pense que vous avez vu les images de queues, de files d'attente et de tensions, et on s'engueule et on se tape parfois dans les stations. C'est un peu le bordel. Ça, j'ai pas le droit de le dire à la télé, mais à un moment, il faut dire les termes. C'est le bordel. Donc, question de Caroline Roux. Ça, c'est intéressant parce que là, il y a eu promesse. Le retour à la normale, c'est pour quand ? Le retour à la normale, c'est pour quand ? A demandé Caroline Roux sur la question de la pénurie de carburant dans le courant de la semaine qui vient. Donc, je suppose que c'est la semaine prochaine. Merci pour les messages. Je vous lis. Dans le courant de la semaine qui vient. Bon, la semaine qui vient, vous l'avez compris, comme moi, c'est la semaine prochaine. Hein, il y a Mimiche qui a été surpris aussi. Mimiche 49 qui dit « Ouais, prise de risque énorme. » Ben oui, oui, prise de risque. Dans le courant de la semaine qui vient. La semaine qui vient, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Là, j'ai été surpris parce que pour le coup, c'est une forme de prise de risque. D'autant qu'il a rappelé un tout petit peu plus tard que ben, ce n'était pas le gouvernement qui était à la manœuvre et qu'on ne pouvait pas tout mettre. Hein, il a pris, je sais pas, une expression, le singe, pas quoi. On met toujours le singe sur l'épaule du gouvernement, j'ai pas trop compris. Mais non, on ne peut pas tout mettre sur les épaules du gouvernement, et que c'est un conflit social dans une entreprise privée. Et que le gouvernement ne peut pas tout. Donc il a pris... c'est intéressant. Il y a M. Smiley qui dit... Ah oui, ouais, c'est pas faux. Ouais. Ah, quoique, M. Smiley dit non, il n'y a pas prise de risque, puisqu'il y a réquisition. Dans certaines raffineries, celles du groupe Esso ExxonMobil, pas celles de Total Energy, il y a des décisions de réquisition, c'est-à-dire qu'on fait... Le préfet prend un arrêté qui permet de demander à un certain nombre de salariés, assez réduit, parce qu'en fait, on est sur des dépôts de carburant, en fait, plutôt qu'un travail de raffinerie, avec quelques salariés, on les oblige à travailler, on ne leur demande pas le choix, et donc les livraisons reprennent dans les stations-service. C'est vrai qu'avec ces réquisitions, bah oui, en quelques jours, l'essence, le carburant, va revenir dans les stations-service. Donc il y a un peu moins de prise de risque. La question quand même, ces réquisitions ne concernent pas l'ensemble des raffineries, puisque elles concernent uniquement le groupe Esso ExxonMobil, là où un accord majoritaire signé par les syndicats a été trouvé, le gouvernement disant aujourd'hui on ne peut pas prendre de réquisitions dans l'entreprise où aucun accord a été signé par les syndicats, parce que là pour le coup ça provoquait sans doute une sacrée colère du côté de ces salariés et de ces syndicats, et là je parle du groupe Total Energy. Mais ok, donc c'est son pari, c'est que les réquisitions vont permettre de revenir à la normale. C'est peut-être un pari quand même, on verra ce qui se passe la semaine prochaine, puisque la réponse a été claire. Alors, sur une polémique, qui est-ce que le gouvernement a raison de prendre cette décision des réquisitions ? donc de permettre au préfet de prendre ses décisions. Pour schématiser le débat politique, à droite aujourd'hui, on dit « Oh là là, il fallait le faire bien plus tôt, le gouvernement a tardé à prendre ses décisions, le gouvernement est responsable. » À gauche, on dit exactement l'inverse, « Il ne faut pas prendre ces réquisitions qui sont une injure au droit de grève et au dialogue social. » Bon. Donc les critiques viennent de la droite et de la gauche, ce ne sont pas les mêmes, vous l'avez compris. La réponse du président Macron ce soir, c'est « Les réquisitions ne pouvaient pas être prises avant parce qu'il fallait donner sa chance au dialogue social. » On l'aurait fait plus tôt, on nous aurait reproché d'ignorer ce dialogue social, mais au vu du, pardon, ce sont mes termes, pas ceux du président, du bordel, eh ben, du coup, je prends cette décision. Voilà la réponse du président Macron. Voilà pour l'échange qu'il y a eu sur la pénurie de carburant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ça? Je vous lis un petit peu, et on enchaîne notamment avec l'Iran. Comment ça, on force les gens? Ouais, Goldie Officiel, on a bossé là-dessus ce matin. Il y a Goldie Officiel qui dit « Comment ça, on force les gens à travailler ?» Bah oui, en fait, on a bossé là-dessus ce matin, parce que j'étais pas au point, j'étais pas carré, sur qu'est-ce que c'est une réquisition. Et on est allé voir ce que dit la loi, et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet au préfet, donc dans un département donné, de publier un décret, ou un arrêté, je ne sais plus, vous vérifierez, qui dit, voilà, pour telle entreprise, pour tel dépôt, telle raffinerie. Le préfet, je réquisitionne X salariés, pas beaucoup, hein, parce que manifestement on n'a pas besoin de beaucoup pour ouvrir les vannes d'un dépôt de carburant, quoi. 3, 4, 5 personnes. Nommés dans le texte, dans le décret ou l'arrêté, les gens sont nommés. Donc c'est Jean Dupont, c'est Samuel Etienne, c'est Monsieur Goldie, voilà. Ils sont nommés et ils sont obligés d'aller travailler. C'est une réquisition, voilà. C'est ce que permet la loi. C'est une réquisition. Ils sont obligés d'aller taffer et sinon, ils peuvent être condamnés à une amende et à une peine de prison. À vérifier si c'est avec sursis ou ferme, mais il y a une peine de prison qui est prévue. Donc, c'est une réquisition, c'est une obligation. Voilà. Il est prévu que la police vienne les chercher à leur domicile pour les escorter jusqu'au travail, alors à la fois pour les emmener et deux, peut-être pour les protéger aussi de grévistes qui ne seraient pas contents. Donc une réquisition, c'est exactement ça. On a bossé là-dessus ce matin. C'est exactement ça. Ça peut être surprenant, mais c'est exactement ça. Voilà. Alors, je vous avoue qu'on a travaillé là-dessus ensemble ce matin et on a eu cette réponse. Voilà. Je vous lis encore sur les réquisitions. Quelqu'un pourrait me dire pourquoi pas Total ? Il baisse, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, c'est constitutionnel. Je garde ta question. Il y a réfléchi, si c'est constitutionnel, bah oui, c'est légal puisque la loi le prévoit. Alors après, c'est très encadré. Évidemment, on ne peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. On est quand même dans une démocratie. Donc c'est très encadré par la loi. C'est dans des circonstances bien précises. Et justement, les syndicats disent que ces conditions très précises ne sont pas présentes ici. Et disent déjà qu'ils vont porter l'affaire devant les tribunaux. Dans le passé, d'ailleurs, il y a des décisions de ce type qui ont été cassées par la justice, qui ont dit que les conditions n'étaient pas réunies et donc l'État n'aurait pas dû prendre cette décision. Le problème, c'est que le temps que la justice prenne cette décision, il se passe des mois, en général, et donc ça arrive bien après la fin du conflit social. Donc le résultat, l'efficacité de la reprise de la production dans l'entreprise en question, il est là. Et puis, on va dire le coût politique à payer, il est assez faible. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Mais donc très bonne question, réfléchis. Mais oui, c'est légal. C'est légal, mais c'est très encadré. Voilà. Et dans le passé, il y a pu y avoir des abus. Ibès, quelqu'un peut me dire pourquoi pas Total ? Oui, moi je peux te le dire. Le gouvernement estime que ces réquisitions aujourd'hui ne sont pas, on ne peut pas les prendre dans une entreprise où il n'y a pas eu d'accord entre la direction et les syndicats. Or, chez Exxon, non. Esso ExxonMobil, il y a eu un accord majoritaire d'une partie des syndicats, voilà, donc la CGT ne doit pas en faire partie, mais un accord majoritaire avec la direction, sauf que les dépôts sont toujours bloqués, et là le gouvernement a dit, dans ce cas, puisqu'il y a un accord, et qu'il y a quand même blocage, et que c'est un accord majoritaire, eh bien je prends une décision de réquisition, voilà pourquoi pas Total aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'accord chez Total. Alors beaucoup de commentaires, hein, je ne vais pas tous vous lire sinon je vais me coucher à minuit. Kaplem, le dialogue social est important, mais quand une minorité bloque un pays alors qu'il y a un accord majoritaire, on en parlait à l'instant, est-ce que c'est vraiment de la démocratie ? Certains sont allés chercher dans les textes, donc c'est 10 000 euros d'amende et 6 mois de prison pour quelqu'un qui refuserait d'aller bosser s'il est réquisitionné. Quelqu'un me dit, hypnose, que ça se passe tout le temps à l'hôpital en cas de grève, ça. Ok. Info augmentée, vous me donnez plein d'infos, c'est cool. Non, c'est pas l'État qui risque 6 mois de prison ferme, non. Je pense que tu fais exprès de faire la blague. Ok. Révi l'offre, va faire dodo, tu vas être éclaté. Je poursuis quand même, parce que je m'engage vis-à-vis de vous. L'idée, c'est de regarder ensemble, de passer un moment ensemble déjà devant un événement. Là, c'était une interview politique, puis aussi un petit peu de débriefer. Je me suis permis de temps en temps de faire des pauses. Je suis content parce que, du coup, et c'est grâce à vous, j'ai progressé là-dessus. Quand on a fait le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qu'on a streamé ici, puisque j'avais à l'époque acheté les droits à TF1 et France 2, avec un certain nombre d'autres streamers, comme Jean Massier, comme Sardoche, et comme Hugo Décrypte, hein, on était quelques-uns à avoir streamé ça, on avait bon, en gros payé les droits pour ça, c'était une soirée intéressante. Donc on écoutait, et puis pendant qu'on écoutait, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce que je parlais par-dessus les deux invités, et par-dessus les journalistes qui posaient des questions, donc ça veut dire au risque de couvrir des propos importants? Est-ce que j'écrivais dans le chat des remarques, mais pas forcément lisibles? Et puis à un moment, quelqu'un ce soir m'a dit, alors que je commençais à parler par-dessus, mais pourquoi tu fais pas des mini-pauses? Bon, ça va décaler un petit peu le direct, ok? Donc tu vas perdre quelques secondes, quelques minutes à la fin par rapport au direct, mais bon, en gros, c'est pas si grave, quoi, on s'en fout, quoi. Et donc j'ai fait ça. Et la proposition est venue du chat, et j'ai trouvé ça très pertinent. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a Mimiche qui dit très bien les pauses. Moi, j'ai trouvé ça assez pertinent, pour le coup. Ça m'a bien plu de faire ça. Voilà, quand quelque chose était particulièrement important, je faisais une petite pause et je contextualiser un petit peu. Bon, ça vous a plu? Cool, très bien, top, bon compromis, mieux. Ah, je suis content. Ah, yes. Bon, bah, ça me fait plaisir. Ne me félicitez pas, l'idée est venue de vous. Hein. L'idée est venue du chat. L'Iran. Bon, moi, j'ai trouvé ça super fort. Donc, vous avez entendu, vu comme moi, cette femme très, très digne, donc présentée comme française aujourd'hui, mais d'origine iranienne, cette écrivaine hein, qui s'est adressée au président de la République. Pour moi, c'était le moment le plus fort de cette émission. Donc cette femme qui a évoqué la répression sanglante, hein, on tire à balles réelles sur ces Iraniens, ces Iraniennes qui défendent aujourd'hui leur liberté, hein, notamment les femmes, leur liberté de s'habiller comme elles le veulent, de porter le voile ou pas. Voilà. Cette femme très digne a évoqué ces adolescentes de 16 ans qu'on torture jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité en Iran, mais l'Iran aujourd'hui c'est ça. Ce sont des jeunes, même pas des jeunes femmes, des jeunes filles, des adolescentes qui sont arrêtées, hein, qui sont torturées jusqu'à la mort. Donc ça c'est ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une question que je soulève régulièrement le matin et qu'on a soulevé à plusieurs reprises le vendredi soir avec mes invités dans l'hebdo Étienne, dans laquelle on revient sur l'actualité de la semaine, c'est et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les pays occidentaux, on constate, on pleure, on est touché, on est attristé, on est ému, on se lamente, on dit que c'est impossible, c'est insupportable, ce que je viens d'évoquer. Et après, qu'est-ce qu'on fait? À part en parler. Hein, est-ce qu'on est totalement impuissant? C'est pour ça que je trouvais cette question vachement importante. On a entendu le président Macron répondre que la France condamnait la répression, mais, je cite, qu'on ne pouvait pas faire le destin des peuples à leur place. Clair. On ne peut pas intervenir. Ce n'est pas la responsabilité de la France d'intervenir. On peut rien faire. Quoi. On peut rien faire. On ne peut pas faire le destin des peuples à leur place. À un moment, Caroline Roux lui a demandé, mais alors vous avez salué la main d'un haut responsable iranien récemment, elle a montré la photo, il a dit oui, bah oui, la diplomatie c'est parler à des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, après, je bats ma propre coulpe, hein. Je me dis, on a entendu le président Macron dire qu'il n'y avait pas de solution, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ai pas la réponse non plus. Hein. Et vous le dites dans le chat, je vous lis là. Ce serait géopolitiquement impossible, dit Toxicose 117. Voilà. Il compte sur une révolution. Ouais, c'est ça. Bon, alors, est-ce que ce mouvement va déboucher sur une révolution? Ça, c'est une question importante. Des répressions sanglantes dans l'histoire de l'Iran, il y en a eu d'autres. Voilà. Rimek, perso, il m'a déçu dans sa réponse. J'entends la déception et la frustration et l'impuissance. Mais essayons d'imaginer quelle aurait été la réponse possible du président Macron en disant bah oui, voilà ce qu'on va faire pour mettre fin à ce qui se passe. Moi, je n'ai pas la réponse. Quelqu'un me dit mais en Ukraine, on le fait. L'Ukraine, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même histoire. C'est pas... L'Ukraine, c'est un pays qui viole des frontières voilà, et qui attaque un autre pays. Il est assez. Je pense que c'est un peu plus simple. Sur l'Iran, il a raison, on ne peut rien faire, dit monstre délicat. Intervenir en tant que médiateur, on fait que ça, dit Rimek. Voilà. Soft power, dit Cyclounet. Voilà, oui. Question très compliquée, dit Storms 1. Non, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse ce soir à cette question. En tout cas, Caroline Roux devait poser cette question. La réponse a été intéressante. C'est ce qu'on appelle parfois la réelle politique. Donc, voilà, en fait, l'émission s'est terminée avec l'Iran. Et rendez-vous a été pris par Caroline Roux dans 15 jours, le 26 octobre. Il y aura une deuxième émission. Donc, c'est la nouvelle émission politique de France 2, l'événement avec le président Macron. Donc, le deuxième invité de cette émission politique qui recevra d'autres, c'est le président Macron à nouveau. Ce sera le 26 octobre prochain, cette fois pour parler des questions intérieures, des questions franco-françaises, et pas essentiellement des questions internationales. Juste un petit aparté, c'est intéressant de voir le président Macron sur France 2, sur le service public, parce que pendant son quinquennat, le président Macron est très peu venu à la télévision publique. Voilà. Si vous regardez ses interventions, il est quasiment jamais venu sur le service public. Il est venu dans un JT d'Alix, d'Anne-Sophie Lapix, sur France 2, sur un 20h. Il est venu, je crois, sur France 3 également, à une reprise. Donc le président Macron n'est pas beaucoup venu sur le service public. Il est assez intéressant de voir qu'il ait accepté le principe de cette émission, et même à deux reprises, puisqu'il revient le 26 octobre. Voilà, il y a Olive Bic qui dit « c'est pour vous consoler de la fin de la redevance », je ne sais pas, mais bon, c'est intéressant. Intéressant pour ceux qui s'intéressent aux relations entre les médias et les politiques, quelque chose dont on parle assez régulièrement. Moi, je voudrais faire un autre sondage avant de nous quitter, puisque je dis avant de vous quitter, puis dans une demi-heure, je serai encore en train de discuter avec vous. C'est sur l'émission en elle-même et Caroline Roux. Voilà, je vous ai déjà dit ce que j'avais pensé de son travail ce soir, mais je ne vais pas le redire parce que je ne veux pas influencer trop sur le sondage. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation, de l'émission et puis de la prestation de Caroline Roux. Qu'avez-vous ? Il y a mon amoureuse qui est venue, qui est en télétravail à côté de moi. Ça me fait bien plaisir. Ça va, ma puce ? Tu travailles ? Elle travaille trop, elle travaille beaucoup. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Caroline ? Je pense que ça ne va pas passer. En termes de caractère, Roux. Oh, ça passe, c'est parfait. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Caroline Roux ? Bon, on va faire un peu comme le président. Donc, vous avez trouvé la prestation très bonne. Vous l'avez trouvée bonne. Vous l'avez trouvée moyenne, cette prestation. Donc, ça, là, on parle de prestation en tant qu'intervieweuse, hein, bien sûr. Mauvaise et très mauvaise. En fait, je pose exactement la même question que pour la prestation du chef de l'État. Voilà. Et après, une fois que vous aurez voté, je vous donnerai mon sentiment. Très bonne, bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise. C'est parti. Hop. Oui, c'est vrai, j'ai déjà donné mon sentiment tout à l'heure, mais bon, je voulais avoir le vôtre. Et ça donne, le sondage est en cours. Ok, Donc très bonne, on est déjà à 32%, bonne 42%. Si j'additionne bonne, très bonne, on est à 43%. Vous êtes à 73% à avoir jugé bonne ou très bonne la prestation de Caroline Roux. Bon, 20% moyenne et vous n'êtes que 4% à l'avoir trouvée mauvaise et 3% très mauvaise. Bon, je pense que les grandes tendances de ce sondage ne vont plus beaucoup bouger maintenant. Merci Annie pour le message, très intéressant. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Caroline Roux? Bonne, très bonne, si j'additionne, on est à 73%, moyenne 20%, et vous n'êtes que 4% à l'avoir trouvée mauvaise cette prestation, très mauvaise 3%. Bon, je suis content, parce que je suis d'accord. Je ne le dis pas parce que c'est une consoeur, je ne le dis pas parce que c'est une consoeur du service public où je travaille, mais effectivement, vous avez le résultat. Voilà, ici, effectivement, j'ai trouvé qu'elle était claire, qu'elle posait les questions qu'on se posait en ce moment, qu'elle était pugnace, hein, qu'elle relançait quand elle avait le sentiment de ne pas avoir la réponse. L'équilibre est difficile à trouver entre la pugnacité, l'énergie et l'agressivité, hein. Parfois, on a l'impression d'une interview agressive parce que le journaliste essaie d'obtenir des réponses, il ne les a pas, alors il insiste, il demande, il y a une forme d'agressivité. Là, moi, je n'ai pas vu d'agressivité, j'ai vu de l'exigence, voilà, et un bon rythme donné à l'interview, parce qu'on a forcément, quand on reçoit un politique, et surtout un politique habitué à l'exercice médiatique, comme le président Macron peut l'être, eh bien, une tentation de dérouler un petit peu, de faire de la communication politique, c'est-à-dire d'être venu pour présenter ses idées, pour dérouler un programme quand on est candidat, ou de défendre sa politique quand on est en responsabilité. Donc face à cette tentation de dérouler des idées, eh bien, le journaliste est là, lui, pour poser des questions et ne pas se laisser embarquer par son invité. J'ai trouvé que c'était un excellent travail. Voilà, moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très bien, vraiment très très bien. Et je ne le dis pas parce que c'est une consoeur. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas venu sur ce terrain. Voilà. Tout simplement. Il y a un truc qui m'a fait rire sur la forme, vous aussi je crois, c'est... Alors ça, Jojo 44, oui, le temps manque parfois, c'est chiant. À certains moments, vous avez vu Caroline Roux qui enchaînait, qui essayait même d'interrompre le président pour aller un peu plus vite, pour enchaîner, pour passer au sujet suivant. On est à la télé, le temps imparti de l'émission est défini, délimité, voilà, et après il faut rendre l'antenne parce qu'il faut passer la main au programme qui est prévu après, sinon c'est sans fin. C'est l'un des intérêts de Twitch, alors il y en a plein, l'interactivité, l'échange, ce qu'on vit en ce moment, le côté communauté, la légèreté technique, bien sûr, la liberté de, avec un très peu de matériel, de proposer des émissions et de créer une chaîne finalement, et puis la liberté du temps, hein, j'ai déjà reçu des invités ici 7 heures, ma revue de presse le matin dure 3 heures, et on a le temps qu'on veut puisque on est sur sa chaîne et il n'y a pas d'antenne après, là je rends quand je veux, pas trop tard quand même parce qu'il faut aller dormir un petit peu. Mais évidemment, ben, il y a un cadre de temps qui est très rigoureux à la télévision et qu'ici, on peut faire exploser. Et le temps étant aujourd'hui le luxe, hein, de notre société, civilisation, où tout va très vite, de plus en plus vite, avec les chaînes d'info en continu, notamment au niveau de l'information, avec Internet. Voilà, ça va de plus en plus vite et c'est mon sentiment à moi de vieux machin. Voilà, on ne prend pas assez le temps, notamment de comprendre, d'échanger. Voilà. Et là, c'est ce qu'on peut faire sur Twitch. Évidemment, c'est parfois un peu frustrant en télévision. C'est pour ça que je suis content d'être sur les deux médias. Je vous lis un petit peu là-dessus. Et après, je ferai quelques petites remarques rigolotes, quelques merci. À quand Macron chez Étienne ? Demande de Wolfiane. Alors moi, j'ai pris le parti, après en avoir invité quelques-uns, de ne plus recevoir des politiques sur Twitch, parce que ça a provoqué d'énormes polémiques, voilà, d'avoir reçu François Hollande, Jean Massier, qui était le Premier ministre de l'époque, et d'autres, d'énormes polémiques. Certains viewers et streamers m'ayant reproché de salir Twitch. Voilà. Ce sont des mots qui ont été prononcés, que la politique n'avait rien à faire. J'ai dit Jean Massier, bon, c'est parce que j'aime trop le travail de Jean Massier, Jean Castex. C'était pas très très bien passé avec Jean Castex d'ailleurs, qui n'avait pas tout à fait compris l'exercice de Twitch. Mais non, le lapsus, je l'ai pas fait exprès, mais j'aime bien le travail de Jean Massier. Par ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un excellent vulgarisateur des questions politiques sur Twitch, il est juste excellent. D'ailleurs, il est invité en ce moment même sur France Info Télé. Et donc voilà, certains ont, suite à cette invitation, m'ont expliqué publiquement que la politique n'avait rien à faire sur Twitch, qu'on savait où la trouver. Mon avis personnel n'étant pas celui-là, bien sûr, sinon je ne l'avais pas proposé, mon avis étant que cet outil d'échange, d'interaction, quand les deux parties jouaient le jeu, les viewers et les invités politiques, ce qui n'est pas toujours le cas, ça pouvait être un moment d'échange intéressant direct, voilà, qui n'est pas rendu possible par les autres médias, pour eh bien, créer les conditions d'un dialogue entre les responsables politiques et les citoyens, ces derniers, les citoyens, pouvant interpeller les politiques. Bon, certains ont apprécié. D'ailleurs, les audiences étaient très importantes. Mais, comme on dit, il y a eu une sauce, il y a eu une polémique autour de ça que je n'ai pas trouvée très apaisante. Et donc, j'ai pris la décision à ce jour, de ne plus le faire. Est-ce qu'un jour, je changerai d'avis ? Je ne sais pas. Voilà, j'ai besoin d'un minimum de confort intellectuel et je n'allais pas passer de sauce en sauce et de polémique et polémique sur ces questions. L'autre problème étant que quand on est journaliste et qu'on commence à recevoir des politiques sur Twitch, il faut tous les recevoir. On ne peut pas recevoir tel ou tel seulement. Hein. On est obligé de respecter la démocratie et la République et de recevoir toutes les sensibilités qui, en tout cas, jouent le jeu de la démocratie, se présentent aux élections, ont des élus. Voilà. Donc ça implique de recevoir tous les partis. J'ai bien dit tous les partis. Et ça aussi, je pense que quelque part, il y a une partie du public de Twitch qui n'était pas prête à ça. En télévision, ça ne pose aucun problème. Voilà. Et peut-être qu'un jour, je jugerai opportun l'idée de recommencer. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je pose... j'ai fait cette pause, qui est une pause. Peut-être que dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, je changerai d'avis sur la question. Aujourd'hui, je suis plus dans un travail de commentaire et d'analyse de l'actualité, qui est un peu plus chill, un peu plus tranquille, que de recevoir des personnalités politiques. Le vendredi soir, je reçois beaucoup de journalistes qui parlent de l'actualité politique. Et ça pose aucun problème, manifestement. Mais si j'invitais le vendredi soir des politiques, je sais que voilà, ça, ce serait de nouveau un petit peu compliqué. Un truc qui m'a un peu étonné ce soir, c'est quand le président Macron, vous l'avez vu, appelait des graphiques. Hein, disait, ah ben ouais, on va voir le graphique, on va voir la carte. Alors, c'est très très. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. On avait l'impression que le réalisateur, l'animateur de l'émission devenait le président. Voilà. C'était un peu étrange. Un peu étrange. Alors, en écoutant bien, on comprenait que c'était des graphiques, des chiffres qui avaient été amenés par le président. À un moment, il y avait eu un graphique qui venait nous joindre le Parisien, par exemple. C'était drôle parce que parfois, il appelait les graphiques et puis il ne venait pas tout de suite. Voilà. Et c'était un peu étrange parce qu'il y a un tout petit mélange des genres, parce que normalement, ce n'est pas à l'invité d'appeler ses documents. Alors, connaissant la manière de travailler du service public, évidemment, ça a été validé par les organisateurs de l'émission. Et donc je pense, je ne suis pas dans la préparation de l'émission, mais je pense que dans la préparation de l'émission, l'Élysée a dit, alors nous on voudrait à un moment évoquer des chiffres, des statistiques, donc on voudrait présenter tel ou tel document, telle ou telle source, France 2 se les est procurés, se les est vus proposer, et a validé les documents qu'on a vus là, sans doute en les vérifiant d'ailleurs, pas sans doute d'ailleurs, sûrement à 2000% en vérifiant leur véracité. On va pas laisser un invité politique faire du fake news, bien sûr. Voilà. Bon, après tout, pourquoi pas, en support à ses propos. Alors après, je trouvais que sur la forme, c'était un peu étrange de voir l'invité, à un moment, appeler ses chiffres et ses graphiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Si tous les politiques le peuvent, pourquoi pas, c'est pas mal, dit Lloyd. Ok. À partir du moment où tu parles du prix de l'essence, c'est mieux de voir les prix, me dit Racine. Ça change du tweet imprimé, Aaron Deal, qui connaît bien... L'actualité politique, manifestement, et qui fait référence à un tweet imprimé par Marine Le Pen, si je dis pas de bêtises. Très bien à refaire. Mamie Daniel, ça me choque pas, dit Gotek. Cat Garlic, je rêve du moment où les débats politiques auront des PowerPoints, ça changera de la joute verbale stupide. J'ai bien aimé, Heure Zéro. Je trouve ça très bien, Kilik. J'ai aimé, ok. Ok, vous n'avez pas été si surpris que moi, en fait. Très bien, ça éclaire, c'est pas une mauvaise chose, très bien. Je pense que c'est une manière de sourcer son propos plus direct. Ok, d'accord. Eh bien, c'est intéressant. J'ai adoré cette interactivité. Une image vaut mieux que 1000 mots. Ok, d'accord. Moi, j'étais un peu surpris parce qu'on est sorti d'un cadre classique, mais vous, pas tellement finalement. Ruffin a toujours 50 documents avec lui en interview. Ok, d'accord. Tant que l'information est vérifiée, me dit Shani Game X. Alors bon, bah après, moi, en tant que journaliste de l'audiovisuel public, pour moi, c'est une évidence. Connaissant la rigueur de la rédaction de France 2, il est évident que tous ces documents ont été vérifiés, bien sûr. Ok, vous êtes plusieurs à le dire. Ok. Alors, avant de terminer, un grand merci. Voilà, à vous tous d'avoir été si nombreux ce soir, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que vous soyez si nombreux. C'était un chouette moment de votre nombre et puis de la qualité de vos interventions, parce que j'avais les yeux rivés sur le chat pendant toute l'interview. Et je me suis régalé, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, de la pertinence et de la justesse de vos commentaires. Parfois, quand on parle de l'actualité politique, bon, il y a un peu de ça troll, ça provoque, ça se bastonne un peu dans le chat. Bah, je n'ai pas vu ça ce soir. Donc, je vous dis juste bravo. Voilà, GG à vous, c'était juste génial. Évidemment, les modérateurs ont travaillé ce soir et merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On débriefera, on va débriefer ensemble sur notre petite boucle sur Twitter ensemble. Francis, Soleil Alan, Takayov sont encore avec nous. Nightbot aussi, bien sûr, l'ami Nightbot. Vous étiez encore plus nombreux tout à l'heure et vous avez fait un super boulot comme d'habitude. Voilà, on partage, on a cette philosophie de la modération ensemble, de laisser les gens s'exprimer, hein, de ne pas supprimer à tout va les messages, de ne pas bannir à tout va les viewers. On est plutôt dans un esprit de dialogue ici et vraiment les modos, vous avez fait un super boulot. Merci à tous ceux qui ont sub, qui se sont abonnés, qui ont envoyé des bits. Le matin, je vous remercie un par un parce que c'est important. Quand je fais des émissions un peu exceptionnelles comme ça, je le fais moins, c'est plus compliqué. Je ne veux pas hacher une analyse politique ou un propos politique par des merci à chacun. Donc je m'en excuse parce que c'est grâce à vous que je peux passer du temps sur cette plateforme. Donc merci à, pour les derniers, Silly Maris, pour le sixième mois d'abonnement, je vois beaucoup Annie, Annie qui a régalé mais d'une puissance, à Pigloop aussi, à Artefact, à Gagine, voilà. Et puis c'est vrai, vous l'avez vu, à Annie qui nous a régalé, Annie qui est un soutien majeur de cette chaîne, voilà, qui valide ce qu'on fait ici et qui nous soutient et me soutient. Merci Kamji à l'instant, Kamniji à l'instant pour le soutien. Voilà, merci pour ce soir. Merci d'autant plus que demain matin, pas de matinée Étienne. Demain, on est quel jour ? Jeudi. Vendredi matin non plus parce que je vais à Question pour un champion. J'enchaîne la matinale de France Info pour laquelle je me réveille dans 3h30. Ouais, 3h30. Avec donc j'achète une France Info et Question pour un champion. Je ne suis pas en condition de stream. En revanche, je vous retrouve vendredi soir. Pour l'hebdo Étienne, numéro 8, et je suis très très fier de la line-up, de l'affiche de cette émission, puisque regardez, hop, je vous montre qui on reçoit vendredi soir. Et là, on va se régaler, regardez, là, c'est pas beau. On reçoit vendredi soir pour revenir sur l'actu de la semaine à la maison de 20h à 23h sur ma chaîne Twitch. Mélanie Taravant, excellente journaliste de France 5 qui présente plein d'émissions sur France 5. C'est une collègue, c'est une amie depuis longtemps. Elle présente depuis la rentrée notamment C Médiatique, l'émission consacrée à l'actualité des médias, des écrans, les anciens, les nouveaux. Et justement, je suis invité de sa prochaine émission qui est diffusée dimanche sur France 5 pour parler notamment de Twitch. Mélanie Taravant, je l'adore. Salomé Saké, elle est déjà venue au début de l'hebdo Étienne pour la première ou pour la deuxième. Donc, anciennement de Blast, toujours à Blast. Elle vient d'arriver à France Info, la radio. Elle vient d'arriver sur France 5 aussi. C'est une excellente journaliste spécialisée notamment des questions d'environnement. Et puis Clément Viktorovitch. Alors, je pense que vous êtes très, très nombreux à le connaître. Clément, streamer lui-même, même s'il n'a pas streamé depuis un moment. Mais on m'a dit qu'il allait revenir bientôt. Clément, que vous avez peut-être découvert sur France Info, la radio, où il intervient quotidiennement, sur Quotidien, où il intervient de façon hebdomadaire, qui est docteur en politique et qui est un grand passionné et vulgarisateur de la question politique. Est-ce que ça n'est pas beau ? Ça, c'est vendredi 14 octobre à 20h. Je vous retrouve aussi dimanche pour un stream, sans doute le soir. Voilà, ou une revue de presse, ou un petit jeu de société dont je vous ai parlé récemment. Voilà, donc, mais encore, toutes mes excuses, demain matin et vendredi matin, il n'y aura pas de revue de presse. Mille merci, je me suis régalé. J'hésite à faire un raid, vous savez que je fais un raid systématiquement en fin de stream, pour soutenir les streamers, les streameuses qui n'ont pas encore beaucoup de viewers, qui ont des petites communautés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font On voit les gros streamers, ceux qui ont des grosses communautés, mais on ne voit pas tous ceux qui font un super boulot, qui partagent leur passion avec quelques viewers seulement. C'est des heures et des heures et des heures de travail. J'essaie de les exposer tous les jours. Alors, après un contenu politique, j'évite en fait les raids. J'évite les raids parce que je ne veux pas gêner. Vous voyez, je ne veux pas gêner la personne qui reçoit le raid alors qu'on vient de travailler sur une actualité politique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on, vous savez quoi, on fait un mini sondage. Est-ce qu'on fait un raid ou pas? C'est vous qui décidez. Parce que je ne veux pas gêner, quoi. Raid ou pas? Parce que l'idée, c'est de ne pas gêner le streamer qui reçoit le raid, quoi, qui est sur un stream un peu particulier, quoi. Est-ce qu'on raid ou pas? Oui, on fait un raid. Non, on ne fait pas un raid. Je vous ai expliqué pourquoi. Le sondage est parti, c'est vous qui décidez. Et merci à mon amoureuse qui m'a apporté un petit déca pour finir le stream. Il y a Octobre qui dit « Fais comme tu le sens, le chat a l'air chill ce soir. » C'est vrai.